rapport à ces systèmes-là.
En fait, ce qui est fascinant, d'ailleurs, on est-tu en train de...
On peut commencer, si tu veux.
Ah, OK, parfait. Ouais, on n'a pas dit bonjour.
On peut dire bonjour. Bonjour.
Bonjour, podcast.
Bonjour, podcast.
Moi, je n'étais pas habitué des podcasts. Je trouve que les gens ne disent pas beaucoup bonjour. Il n'y a pas beaucoup de...
d'interaction.
Comment ça va, tout ça. Mais il n'y a pas une plug en début de podcast qu'il faut que tu fasses ou tu l'as déjà fait?
Ben, j'en fais pas.
Tu veux plugger une entreprise?
Ou s'il y a une entreprise qui veut que je la plug, je vais être bien content.
Oui, c'est ça.
Là, j'en ai pas là, mais je peux plugger le Patreon, qui est ma plateforme que les gens peuvent me payer, me donner de l'argent par mois.
Oui, puis dis-le, puis ça va me le rappeler de m'inscrire à ton Patreon.
That's it. Patreon, voilà. Dans le fond, plateforme, tu peux donner 2$, 3$ par mois. T'as accès aux épisodes à l'avance, dont c'est l'épisode avec Martin, qui va être sorti sur le Patreon bien avant que les gens le voient sur le channel public. Fait que c'est un des avantages. Je fais tirer des cadeaux aussi que les gens apportent.
Puis ceux qui me voient en ce moment sur le Patreon peuvent m'écrire sur la page Facebook en disant « Je t'ai vu avant tout le monde. »
Ouais.
Fait que moi, dans ce temps-là, je fais un reply, puis avec des symboles. Puis là, ça crée une dynamique.
Exactement.
Mais ceux qui le font après, c'est fini.
C'est fini. C'est fini. À partir du moment où c'est public, il va ignorer tout le monde.
Je ghost tous les commentaires.
Ça va des fuck you.
Je t'ai vu sur le podcast à PB.
Va chier.
Ghost.
Bloqué.
Fantôme. Bloc. Puis je te signale à Facebook et autres.
Une autre personne qui t'a vu avant tout le monde, c'est la personne à la mauvaise adresse où t'es allé aussi.
Oui, c'est ça. Je t'ai allé à mauvaise adresse. Super beau. Super beau chez la personne en petite bobette
qui était couché dans son lit.
Couché dans son lit en train de se dire on est bien. J'ai quand même une cour privée. Martin Petit qui arrive avec un sac d'épicerie. Oh! Avec ma face de je me suis trompé. Oh, il y a eu une belle échange de face.
Puis j'aime que ta réaction, ça a été c'est trop moderne pour. Faut que ce soit chez PB.
Je suis pas allé jusque-là. Mais tu m'as impressionné. Tu m'as impressionné quand je suis arrivé dans ton faux chez vous. C'était vraiment contemporain. J'ai fait waouh, PB, vraiment. C'est vraiment fait une belle piole. Très contemporain. Waouh, étonnant.
Et là, finalement.
Étonnant. Finalement, non, dans un garage.
C'est un step down, mais regarde, ça donne ce que ça donne.
Ben c'est ça. Je trouvais que tu jouais une game.
Non, j'ai pas les moyens de jouer une game, je te dirais.
Bon, il joue une game, lui.
Ça coûte cher jouer des games.
Il vit dans Dwell. Il vit dans un magazine Dwell. Ah non, finalement, non.
Ouais.
Mauvaise adresse.
Mais merci d'avoir accepté de venir. Ça fait un bout qu'on essayait de... Ouais. Que moi, j'essayais d'arranger ça, puis qu'on essayait de trouver une date, puis...
Ben, c'est par pur égoïsme, dans le fond. C'est pas par manque d'intérêt, c'est par pur égoïsme. Puis souvent, je fais pas de podcast parce que la majorité des podcasts se font toujours... Ben, ils se font, premièrement.
Oui.
Fait que c'est jamais dans mon horaire d'être disponible pour faire un podcast. Mais c'est surtout qu'ils se font le jour. Puis moi, le jour, je protège beaucoup. Je suis très farouche à protéger mon temps d'écriture.
Ouais.
Puis j'écris vraiment à tous les jours que je peux. Fait que j'aime avoir ça. Pour moi, ça devient... Puis plus le temps passe, plus ça devient précieux d'avoir mes journées d'écriture. Fait que moi, je suis très farouche. Fait que comme le fait de venir ici, ben là, je sais que c'est une journée que j'écrirai pas de la journée. Okay. Parce qu'il y a une expression qui dit « Tu veux scraper la journée d'un auteur, mets-y un rendez-vous. » Puis c'est mon cas. Fait que moi... Là, je me suis mis plein d'affaires à faire, des affaires à lire, faire du ménage. C'était plus, je pensais à des affaires ce matin, mais très, très, super large.
Okay.
Rien de détaillé, parce que je savais que j'avais pas une... Je savais que je venais ici, fait qu'il y avait zéro écriture qui allait se faire aujourd'hui.
Okay.
Moi, là, tu me mets... C'est pour ça que tu me mets dentiste le matin, puis là, tu viens d'un peu scraper ma journée. Fait que là, toute cette journée-là, ça va être Renault Dépôt, Canadian Tire... changer, faire du ménage dehors. Parce que je sais que toute cette journée-là, ça sera pas assis, penser, écrire.
Man, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Moi, j'ai exactement ce problème-là. Je me mets des 2-3 heures, puis là, je suis comme... Si j'ai une journée qui a un podcast ou quelque chose, ou un show, comme là, je suis au bordel tantôt, j'ai le podcast-là. Fait que là, entre les deux, j'étais comme, ben, je vais aller écrire au bordel. Mais je vais essayer. Mais c'est ça. On dirait que c'est ça. J'ai besoin de nager dans mon affaire, comme toute la journée.
Exactement.
Puis de juste comme flotter, me réveiller avec juste ça à faire. Puis à la limite, là, sur 6 heures, je vais en avoir fait 2, mais ça va être 2 vraies heures que j'aurais pas été capable d'avoir si j'avais pas ces 6 heures-là de lousse.
Exactement. Puis tu vois, moi j'avais une belle routine l'année passée, puis j'allais scraper, tu me parles de nager. Ma routine, c'était d'aller nager à piscine olympique le matin. Puis là, après ça, je partais, puis là, j'allais à mon bureau sur Saint-Laurent. Puis là, ça, c'était ma routine d'écriture. Mais on dirait que ça... on dirait, je sais pas, le fait que fallait que je sorte un one-man show puis que ça je fournisse dans ma tête plus de matériel où j'avais l'impression qu'il me manquait de temps, j'ai commencé à regarder tout l'épisode piscine comme étant un peu fastidieux, puis je me suis dit, je peux-tu faire mieux, je peux-tu être plus efficace dans mon entraînement physique, puis tout ça, puis je l'ai échappé, puis j'ai arrêté de m'entraîner.
Non,
puis
ouais, à ce point-là.
Puis je suis vraiment maudit, parce que je le sens, fait qu'il faut que je recommence, puis c'est dur, ça recommence à s'entraîner, puis je suis pas capable d'aller nager dans une piscine poche, fait que la piscine au Stade Olympique est écœurante, parce que, tu sais, c'est un des plus... une des plus belles piscines.
OK. J'ai aucun référent de piscine dans la vie. Moi, ben, je sais pas.
Parce que le plafond haut, c'est grand. Tu n'as pas l'impression. Tu sens pas l'humidité.
Es-tu plus long? Es-tu...
Une piscine olympique.
Je sais pas comment ça fonctionne.
Dimension olympique.
Ça veut dire que c'est...
Pour écrire, c'était magnifique parce que ça ne te demande pas de réfléchir. Fait que moi, je commençais ma journée d'écriture dans la piscine. Fait que j'écrivais, je partais. Puis là, le mouvement le mouvement juste d'être dans l'eau puis de faire un geste répétitif, mon cerveau commençait à écrire.
C'est méditatif.
Fait que là, ouais, mais c'est une méditation habitée parce que là il y a comme un niveau d'énergie. Tu sais, comme Jacques Brel écrivait en bougeant. Puis je le comprends parce que souvent... À un moment donné, l'inaction d'être physiquement immobile, ça devient une inaction mentale. Mm-hmm. Fait que là, il se levait, puis il bougeait, puis il écrivait beaucoup en bougeant, puis tu vois le rythme de ses chansons, il y a un rythme quand tu crées. Fait que là, j'écrivais en nageant, puis je trouvais que c'était une bonne façon de... Puis après ça, ben, c'était toute la dynamique, par contre, de partir de la piscine, d'aller au bureau, je la trouvais un peu longue. J'aurais été prête à... Puis souvent, ça m'arrivait, je sortais de la piscine, puis j'écrivais, t'sais.
Ok. Tu t'as spoté un café pas loin.
C'est pas le meilleur endroit parce que là, par exemple, c'est pas fait. Le village olympique n'a pas été créé pour un travail intellectuel. Fait que non, là, t'es entouré de sportifs. Puis là, c'est une chaise inconfortable dessinée en 70. Puis là, il n'y a rien du reste qui marche. Puis le dépanneur est so-so. Puis c'est très.
Ah ouais. C'est tellement fragile une routine de l'entraînement que j'ai découvert cette année. Là.
Ouais.
Puis.
Admiratif de ceux qui courent, je pense que le plus simple, c'est courir. Là. Je pense que le poignet était running puis aller courir dehors, mais il y a beaucoup de mois, on dirait, dans l'année, je sais pas lesquels, hein, ouais. 70 points.
Mais moi, je serais game. Mais en fait, sais-tu quoi, je sais pas, parce que courir l'été, je comprends, quand il fait vraiment chaud, ça peut être désagréable, mais l'hiver, quand t'as vraiment chaud, faut juste pas que ça motive à pas arrêter de courir, parce que t'arrêtes 3 secondes, puis t'es complètement congelé.
Mais je sais pas combien de monde sont à l'hôpital l'hiver au Québec.
À cause de ça?
Parce qu'ils rentrent à l'urgence en leggings, là.
Il n'y a pas de crampons, il n'y a pas de...
Il y a avec des souliers de course, là,
ouais.
Qui ont des hanches pétées, puis il y a des commotions cérébrales, ou... Tu sais, je sais pas, même un trottoir montréalais...
On sait qu'il y a des personnes âgées, ça arrive beaucoup, là, en général, là.
Quelqu'un qui s'en va courir, puis qui... Une fraction de seconde...
Ah, c'est, non, c'est vrai, c'est pas récupérable.
Je trouve pas que... En tout cas... Tant mieux, là, s'il y en a. Il y en a sûrement qui vont m'obstiner là, avec des crampons. Tout ça, mais
on est sur Internet.
Non, mais c'est parfait, ça existe. Ouais, j'en vois faire du vélo aussi. Faire.
Ça, par exemple.
Là, ben, bravo, les gars.
C'est cool, mais quand il y a de la neige partout dans la rue, puis le monde font du vélo. Ben, en fait, je ne vais pas les critiquer, mais ça m'impressionne parce que ça me terrifie. Je vois ces gens-là là, avec des pneus. Puis je sais qu'il y a des pneus d'hiver et tout ça, mais ça me. Je trouve ça terrifiant pareil parce qu'il y a de la neige partout, tu vois pas ce qu'il y a en dessous.
Ça me fait penser au sketch de. Moi, je pense toujours au sketch de Louis C.K. puis la pédophilie quand j'y vois passer. Là. C'est toujours.
C'est qu'on est trop sévère?
Non, son sketch où il parle des pédophiles puis il dit que. En début de SNL, il dit.
Ah oui!
Il dit: tu sais qu'est-ce qui va t'arriver quand tu te fais pogner à être pédophile? Tu t'en vas en prison, puis tu vas avoir la pire expérience de prison possible. Ouais. Donc, c'est la pire affaire, à part la mort, c'est de se faire pogner un pédophile. Puis ça, ce qui est au-dessus de ta tête, tu le fais pareil. Donc, l'excellent gag est de dire à quel point ça doit être le fun de faire l'amour des enfants pour passer par-dessus la peur de ce qui peut t'arriver comme conséquence. Fait que puis à chaque fois que je vois du monde en vélo, c'est la même réflexion. À quel point ça te fait plaisir de
d'être
te promener
cette
en vélo alors que les conséquences, c'est qu'on est 8 chars qui, je sais pas par quel miracle on a fait pour pas te rentrer dedans puis pas provoquer un accident qui va provoquer ta mort. Tu joues ta vie. Tu es sur la glace, je suis sur la glace, il y a de la neige, je te vois une fois sur deux.
Je suis déprimé parce qu'il n'y a pas de soleil.
Tu t'en vas là-dedans comme un champion. Puis je sais pas à quel point tu risques ta vie pour ce plaisir-là d'arriver à job 30.
De dire que tu fais du vélo l'hiver.
Puis d'arriver à job, moi je sais pas quel job t'as, mais il faut que tu sois le boss.
Ouais.
C'est sûr que t'es le boss de ton entreprise pour arriver à la job puis enlever des sacs de plastique en débat, puis t'as enlevé 8 couches d'imperméable avant
prendre
de t'asseoir,
ta douche.
Avant de t'asseoir à ton bloc de station avec tes joues rouges, puis dans quel état t'es pour travailler?
Ben, j'ai plein d'amis qui le font, ça.
C'est ça.
Puis les autres, ils trippent, ça leur fait...
C'est ça, t'arrives sur un adrénaline, t'as combattu.
T'es quasiment mort pendant
c'est ça,
comme tout ton
survécu,
matin.
tu viens de sauver ta vie. C'est sûr que t'es sur un high, Chris.
Ça permet de tolérer ta job. 8 heures de job, t'es comme, ouais, mais j'aurais pu mourir ce matin, fait que c'est rien dans le fond.
Ça te
là.
Garde sur le qui-vive, c'est ça, tu sais, t'as l'adrénaline du soldat, mais...
Mais moi, je suis pas capable, quand je conduis, de pas les imaginer qui tombent devant mon char.
Ah, ben oui.
Mais c'est juste ça que je vois. C'est juste à ça que je pense. Puis je suis tout le temps comme...
Aucune façon que je t'évite facilement.
Ouais. Fait que je sais même pas comment te protéger contre moi, nécessairement, dans tous les contextes. Puis c'est un peu ça. Puis des fois, ce que j'aime pas, c'est quand il y a l'espèce d'arrogance du vélo de... « Hey, Chris, là, t'es comme... Hey, pour vrai, c'est compliqué à gérer comme situation. »
C'est juste... mon pire cauchemar, frapper quelqu'un. Ouais. Je survivrais pas à ça.
Ouais.
C'est sûr que moi, demain, je frappe quelqu'un, je reste chez nous le restant de mes jours, je sors plus jamais.
T'as peur
Je fais livrer tout. Je fais livrer tout. Je fais des shows devant des chez nous. Je sors dehors, je mets un stage, je fais des shows devant chez nous. Je sors plus jamais.
T'as-tu déjà eu un accident?
Non, j'ai jamais frappé quelqu'un de ce que je sais. Non, mais
ma cousine avait frappé un handicapé.
Ah.
Ouais. Fait que genre, il y avait pas de bras, en fait. Fait qu'il était pas capable de se relever. Elle a pensé qu'il était mort parce qu'il était pas capable de se relever.
Évidemment.
Mais avant qu'elle comprenne qu'il y a pas de bras.
Il manquait des bras. Puis... Elle est partie chercher les bras dans le champ, j'imagine.
Non, il était pas.
Fait qu'elle laissait en train de se mi-mourir en cherchant des bras qui n'existent pas. En se disant, je vais les mettre dans la glace. Ah, c'est mettre le monde en ce niveau de difficulté là-dessus, il est énorme.
Hey, mais non, mais ça me fait capoter. Là. Mais j'ai envie d'en revenir.
Moi, j'ai déjà frappé pas en char, mais j'étais au secondaire, tu vois. Peut-être que ta soeur, ta cousine puis moi, on pourrait vivre.
Relate.
Ouais, on pourrait partager notre émotion. C'est que j'étais au secondaire, puis je tourne le coin vite, là, 90 degrés, puis je rentre d'un étudiant, pow! Puis il tombe à terre, excuse-moi, puis il se relève. Puis un peu comme Stéphane Laporte, tu sais, puis il pend. Puis pendant beaucoup trop longtemps de microsecondes dans mon cerveau, j'ai pensé que c'était moi qui
avait causé ça.
Cette paralysie cérébrale que je savais pas qu'il existait, tu sais. Fait que là, je le vois marcher dans le corridor, j'ai fait à quel point je l'ai frappé, puis sa résistance avant de voir que, tu sais, ça revenait pas à...
C'est normal, c'était pas comme, ouais, c'est pas.
Non, c'était. Ça persistait dans le temps, j'ai fait. Ah, ok, c'est une maladie. Mais pendant trop longtemps, j'ai pensé
c'est
que
ma faute.
C'était l'impact que j'avais créé. Ouais. J'avais déboîté trop de joints dans son corps.
Mais moi, j'ai tendance à faire ça, là, à penser que c'est tout le temps que
c'est
ma faute.
C'est peut-être ta cousine qui pensait qu'elle cherchait les bras.
Mais Pascal, c'est Pascal Picard, la chanteuse.
Ta cousine?
Ouais.
Ah, bon.
Genre pour l'anecdote. Là, si
ouais, c'est ça.
Mais
es-tu inscrit à ton Patreon?
Es-tu? Je sais pas, Pascal.
Ouais, Pascal, ça serait à moindre des choses.
On va le savoir, sinon tu vas recevoir un message, tu répondras pas.
L'autre affaire par rapport à cette anecdote-là, parce que je pense que ça sert à ça des podcasts,
ben oui.
De passer du coq à l'âne. Ben, je veux rester dans l'âne 2 secondes.
Oui, vas-y.
Et dire à quel point... là, je me suis déconcentré avec
l'image. Ah, vas-y.
Mais on parle d'handicap. Ah, c'est ça, c'est mon pire fou rire radio gênant. Là. Ça concerne ça. C'est moi, j'ai fait le matin à Énergie, tu sais. Puis je suis pas un gars de matin. Puis je suis pas... C'est pas ça, là.
Pour expliquer l'horaire, tu te lèves à 3h30.
Ça marche pas.
Tu te rends à la station à 5h.
Ah, je me levais à la dernière minute. J'ai essayé d'étirer. Mettons, j'arrivais... Je prenais une douche parce que c'était la seule façon de me réveiller. Mais je me levais, mettons, je sais pas, 5h30 parce que les shows commençaient à 6 dans le temps. L'année d'après, c'était 5h30.
OK.
Fait que là, de 6 à 7, j'étais pas capable de dire une chose d'intelligible. Je faisais ha 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 ha. Yeah, non, ouais.
T'es généreux.
Bouah. Mais Pierre Pagé puis Mitsu faisaient toute la job, puis je faisais juste réagir. Là. J'étais color man, mais ma couleur, c'était...
C'était beige.
C'était gris, un gris pas clair. Mais, arrive, mais il y avait un... Comment il s'appelait, celui qui faisait la... En tout cas, les informations. Puis, on se faisait rire, je sais pas pourquoi, puis on avait vraiment une belle complicité. Juste avant d'arriver en onde, il rentrait dans le studio, puis tout le temps le moment où on se taquinait. Puis rapidement, il tombait en mode super sérieux. Les actualités, blablabla. Avec ce ton-là, puis cette voix-là, puis ça me... il y a quelque chose qui me fait rire. Puis c'est le moment, évidemment, là, c'est le moment... T'es comme aux douanes, t'as pas le droit d'être un humoriste parce que c'est une nouvelle.
Puis t'as c'est sérieux. Jokes, puis c'est sérieux. C'est souvent des mauvaises nouvelles.
C'est jamais des bonnes nouvelles. Fait qu'il rajoute la fatigue à ça. Mm-hmm. Fait que juste tout ça pour dire qu'il y avait pas de méchanceté dans ce qui s'en vient. Mais... Et je pars à rire de quelque chose qu'on s'est dit avant la mise en onde. Je n'écoute pas ce qu'il dit parce que je suis trop fatigué.
Ouais.
Fait que j'ai aucune idée de ce qu'il dit, puis... mais je pense à la connerie qu'on s'est dit juste avant de rentrer en onde. Fait que je fais juste... Puis j'essaie de retenir, hein, mais sans le savoir, on m'entend. Puis on m'entend rire pendant que lui est en train de raconter la chose suivante. C'est qu'au coin Pépinot-René-Lévesque, il y avait un handicapé en triporteur qui avait traversé la rue, puis il s'était fait frapper par un char. Fait que le triporteur, puis lui, pont, était parti dans l'autre sens. Et là, c'était fait frapper par un autre char qui était... Fait que c'était devenu une game de ping-pong entre deux chars.
Avec un
puis au centre, la balle, c'était un handicapé, homme tronc en triporteur. Fait que, et moi, on m'entend rire. Tu comprends-tu oui, à quel je point?
Dans ta tête, il y a un cartoon. Là.
Comment j'ai encore une carrière après ce moment-là? Tu comprends-tu? C'est juste assez longtemps avant. C'était l'époque où tu pouvais avoir une carrière après ce genre d'événement-là. Sans avoir aucune méchanceté, c'est fini. Ma carrière était... C'est une des nombreuses fois que ma carrière a dû arrêter. C'est la fois que j'ai ri. Puis là...
Ça a-tu sorti quelque part, ça?
Il y a comme deux personnes, tu sais, en nom des auditeurs, tu riais-tu? Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais non, si je riais d'autres choses, tu sais, puis... Mais c'est sûr.
Puis t'en as jamais entendu parler plus que ça?
Mais pourquoi je n'aurais entendu plus que ça?
Ben parce qu'il y a du monde qui aurait pu faire des scandales. Il aurait pu. Ça n'a pas de bon sens.
Oui, puis j'aurais raconté ce que je viens de te raconter. J'aurais expliqué la situation.
Je sais, mais c'est
ça. Après ça, tu sais, oui. C'est comme, oui, je pense que maintenant, il y aurait eu une réaction plus organisée. Parce qu'à l'époque, je pense que Twitter était inventé pour ça. C'est fait comme, je suis scandalisé, je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Comment ça prendrait un outil? La communication.
Puis il l'avait pas.
Puis il l'avait pas encore.
Petite plug pour ma tournée. Ma thérapeute est morte. Les prochaines dates, Varennes le 11 février. Le 15 février, c'est à Repentigny. Le 14 mars à Alma. Le 28 à Saint-Jérôme. En avril, le 3 à Saint-Jacques. C'est dans le coin de Joliette. Donc, c'est dans ce coin-là. Ça va se passer à Saint-Jacques. Le 10 à Montréal. Nouvelle date qui vient de se rajouter au Terminal Comedy Club. Il n'y a pas beaucoup de place. Fait que dépêche-toi d'acheter tes billets. Et j'ai le 30 mai à Québec, à l'Impérial de Québec. Donc, ça, c'est la seule date pour l'instant dans le coin de Québec. Et c'est la plus grosse date de ma tournée. Donc, si t'es dans le coin de Québec, achète tes tickets. Écris-moi en privé pour avoir un petit code promo, pour avoir un petit rabais. Et sur ce, de retour à votre programme principal.
J'ai lu, avant que t'arrives, je disais ça sur Facebook, j'ai vu un truc passer. C'était un avis qui est passé à C'est quoi? 83, je pense. Je pense que c'était ça la date, là. Puis c'était un... Ça disait vraiment... on veut pas paraître plate, là, mais genre, là, il y a beaucoup de gens qui viennent des clients, puis des invités qui passent dans la station, qui se promènent dans la station. Donc, là, s'il vous plaît, faudrait arrêter de fumer de la drogue sur les heures de bureau, dans les corridors de la station. Je sais que c'est plate, mais c'est comme ça. Là. On veut pas avoir l'air straight, c'est ça. On est désolé d'avoir l'air trop straight, mais c'est le nouveau règlement.
Genre. C'est
ça. C'est comme si c'est une autre époque, là, complètement. Là.
Ouais,
il s'excuse de demander aux employés d'arrêter de fumer de la drogue dans vraiment? Les bureaux de la radio à cause qu'il y a du monde qui se promène. Ouais. Mais 83, je trouvais que c'était. Je trouvais que c'était tard pour être comme
83,
ça.
83, c'est les. C'est pas les années où Christian Tétrault. Ça ressemble à Christian Tétrault, ça.
OK.
Christian Tétrault, c'était un talker dans ce temps-là, puis il était avec Brathwaite. Je peux pas. C'était pas le staff de C'est quoi, je peux pas imaginer.
OK. Non, non,
vraiment... ben, parce que quand tu rentrais à Sequoia, c'était le studio. Puis si tu voulais avoir accès aux gens du bureau, c'était impossible de les croiser. Tu sais, il fallait que tu rentres.
OK.
En haut. Fait que c'est... Sauf que tu rentrais directement, tu croisais.
Ah.
Je vois pas qui fumait, parce que la gang, les 83, c'est même pré-midi fou. Mais écoute...
Moi, je sais vraiment pas la vie. J'ai juste vu la vie passer.
La genre, vie, puis de fumer du pot.
Ouais, ben c'est probablement ça. Là.
Parce que...
Tu sais, quand tu dis fumer de la drogue dans les bureaux, ouais, honnêtement, c'est fumer, quoi les autres options? C'est, t'sais, c'est du crack ou du meth? C'est comme...
Je pense intense, qu'en 83, c'était... Ça devait être la fin du banc de neige là, à énergie. Là, de, à, ce qui était CKMF dans le temps, c'était que de la coke.
Ah ouais, hein?
Tous les animateurs étaient coqués à l'os.
OK.
C'était ça la dope. Fait que c'est étonnant que...
Je savais même pas. J'ai pas...
Ben, t'imagines, mettons, t'as vu des films ces années disco. Ouais. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'était ça. C'était que de... C'était ça, là.
Toi, c'est quelles années, mettons? 83,
t'étais-tu... 83, je suis secondaire. Là. Je suis vraiment pas en train de prendre la coke. Non, je dealais. Je vendais de la coke. L'été, mettons, je travaillais sur des bateaux. Puis, tu sais, j'étais un petit peu dans une espèce de triangle. J'étais dans plusieurs organisations, mais c'était une job d'été. Là. J'étais une mule. C'est ça. J'avalais des condoms pleins de coke. Puis, tu sais, je me sortais quoi? 10-15 000.
Pour ça, ton année.
Pour mon année. Là, je payais le voyage humanitaire à Haïti de mon école. C'était un peu populaire.
C'était-tu déjà à mode, ça?
Vendre des bobettes. Ouais. Vendre des bobettes pour payer un voyage humanitaire. Oui, ouais, je voyais ça. Mais j'ai pas participé à ça. Moi, je vendais des t-shirts pour aller faire de l'impro en Belgique. Mais tu sais, chaque objet avait un voyage associé à...
Ah, c'est vrai, toi, t'étais-tu à Montmorency? Non, ça, c'est
moi, j'ai parti ça à Montmorency. Ben oui, les voyages d'impro là, en Europe, ouais. C'est l'année que j'étais là, que c'est moi qui ai organisé le premier voyage de l'équipe d'impro de Montmorency qui était en Europe. Puis là, je pense que ça a encore lieu aujourd'hui. Là.
Ouais, ben honnêtement, je vois tout le temps des troupes d'impro partir.
Exactement,
là.
C'est ça. Mais moi, c'est moi qui ai commencé ça avec Bertrand Pitt. On était les deux joueurs de Montmorency, donc pas d'Internet. On a réussi, je sais pas comment, à trouver un numéro de téléphone. On laissait un message sur une boîte vocale et c'est devenu la première amorce. Puis... par téléphone à 6 heures de décalage. Tu sais, super complexe pour pouvoir organiser un voyage d'impro des Québécois en Belgique. Puis, c'est ça.
C'est niaiseux, mais j'avoue que pour booker des tournées puis des affaires de même dans le temps, ça devait être juste...
C'est pas clic-clac. Ah oui, la référence, clic, email, envoyé. Bonjour, comment ça va?
Man, j'avais oublié. J'avais
pas pensé à cette réalité-là. J'ai des courriels de... T'as des courriels, t'as accès à n'importe qui maintenant.
Ah ouais.
Mais tu peux sérieusement, ça ne me surprendrait pas qu'en 24 heures, toi puis moi, on ait le courriel de Bono, mettons.
Uh-huh.
On force, toi puis moi, en 24 heures, on l'a. À l'époque, trouver la Ligue d'impro amateur belge qui jouerait avec des cégepiens, ça a été un mois et demi d'organisation tout croche. Puis après ça, des lavotos pour payer...
Les billets d'avion,
puis vendre des bobettes, puis faire des shows, bénéfices, puis ça. Donc, énormément d'apprentissage pour y arriver, tu sais.
C'était-tu déjà l'espèce d'époque où... Parce que je sais que là-bas, l'impro, c'est gros. Là. Tout le monde qui vont faire de l'impro là-bas me disent on joue dans des arénas, puis dans des zéniths, puis c'est plein, puis le monde, ils viennent voir ça. Puis...
Ouais, c'est ça.
C'était-tu comme ça, ton expérience, à l'époque? Ou c'était...
Ben, c'était super organisé, mais c'était des adultes. Nous autres, on est arrivés là... Sophie Caron, moi, Stéphane Roy, Ken Scott, puis Claude Legault qui nous coachait. Fait que là, on arrive là, puis on était comme des pros, mais on était des kids, on avait 19 ans, tu sais. Fait que là, c'était un peu... Ouais, c'était un peu, on jouait contre des adultes qui... Quand t'as 19 ans, un adulte, ça commence à 24.
Ouais.
Ça finit à 32, après ça, c'est des vieillards. Fait que là, tu sais, on jouait contre des jeunes adultes, puis qui avaient tous 5, 6, 7 ans...
Mais ça paraît, là.
Ben oui, parce qu'ils ont une vie sexuelle que nous autres, on n'a même pas. Fait que nous autres, on était comme... T'es encore dans la ligue masturbation,
puceau, frottage.
Stand-by.
Stand-by, frottage.
Ouais, c'était récent. Dépucelé, mais récent.
T'en parles pas encore.
Là, il y avait du monde qui avait leur permis de conduire, là. puis qui est capable de
drôle,
qui est capable d'en sauter, de sauter, de sauter un vendredi soir de temps en temps. Nous autres, on sautait sur chaque occasion. Fait que on est arrivé. Fait que je pense que les gens parlent encore de la fois qu'on est allé.
C'est drôle.
Ouais. Puis on est retardé souvent ces années-là. Mais ouais, c'est ça. C'était comme juste organiser ces affaires-là. On puis juste parce que j'ai vécu ça, je suis capable de, après ça de reculer. Puis la, tu sais, mettons, je lis, mettons, sur la... Tu lis sur la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, puis tu regardes les, comment les troupes avançaient, puis la confusion. Puis... Mais comment ne pas... après ça, imagine ta vie
ouais.
lors de la dernière panne d'électricité que tu as eue, puis à quel point tu étais désorganisé.
Ouais.
Fait qu'il devait y avoir des pannes d'électricité à chaque jour du souvenir. Ferme le courant, puis là, rappelle-toi comment eux autres ont vécu ça. Fait qu'ils s'envoyaient des télégrammes, des lettres, des codes qui arrivaient 4 jours en retard pour des mouvements de troupes. Quelle confusion! T'étais à guerre! Puis tu t'en vas à gauche alors que ça fait longtemps que tout le monde est parti à droite. Puis là, t'es dans la marde parce que... Mais l'autre aussi est dans la marde parce qu'il s'est fait dire qu'il allait vers le nord, puis la boussole a pété, puis il y a personne qui connaît le terrain, puis sont allés dans le sud. Puis là, vous êtes... Tout le monde est fourré!
Ça me fait capoter, je pense souvent.
Puis après ça, tu racontes l'histoire avec des graphiques, et là, le général, dans une passe, il s'en va là. Et là, fin renard, l'autre l'attaque par là.
C'est comme pas fin renard ici.
Non, fin
les
renard.
Deux savaient pas qu'il était là.
500 000 hommes confus, 300 autres qui ont pas de lunch, qui ont faim, puis qui là, ils font « Ah, oh, OK, il est là! » Puis écoute... 99% d'improvisation, puis un gars à l'autre bout qui bouge des bonhommes, mais qui ne fait pas que la réalité.
Avec les petits
il
bâtons.
Bouge des bonhommes avec des bâtons. Ils sont là, selon moi, oui, c'est ça. C'est qu'une comédie.
T'as-tu écouté les archives sur Netflix en couleur?
Ouais.
C'est... Ça fait... Je trouve que ça...
C'est, je
ça...
trouve que c'est beau, c'est un bel exercice. Ça
donne une dimension
ouais.
que j'ai jamais eue par rapport à
je
ça.
Je suis abonné sur Twitter, je le suggère à tout le monde. Le musée... Le musée, je pense que c'est Auschwitz-Montréal ou okay. tu tapes Auschwitz-Montréal puis musée, puis tu vas tomber dessus. Puis, entre autres, ils relaient beaucoup, ils ont beaucoup commencé à faire de la colorisation de
photos d'archives.
Parce que les Allemands, de façon spectaculaire, documentaient la pire période de leur histoire. Fait qu'ils ont... C'est impressionnant comment les nazis ont super bien documenté ce qui était de toute évidence une erreur historique, mais ils ont pris des photos, des bonnes photos.
Ils savaient probablement
de
pas
tous
pendant.
Les prisonniers. Non, mais au lieu de rentrer dans les baraques, je suis allé à Auschwitz. Hein? Puis c'était impressionnant. La première peur que j'ai eue à Auschwitz, c'est quand je suis arrivé, puis là, j'ai vu à quel point c'était parfaitement construit. Il y avait comme un souci du détail. C'est-à-dire, quand tu tues autant de monde...
C'était réfléchi.
Puis que la valeur de tous ces gens-là, c'est rien. C'est moins qu'une pinotte ou d'une roche. À quel point ils trouvaient ça important de mettre toutes les baraques. C'était tellement... C'est que tu regardes, là, puis là, t'as des points de fuite parfaits avec des baraques super bien faites. Moi, il y aurait... Tu sais, j'aurais été... tu t'en vas là, puis tu tues du monde, fais-en une de toute façon. T'sais, la logique, ouais. c'est, fais-en une de toute façon, le monde va mourir. Qu'est-ce que crache ou pas crache? C'était parfaitement ça. Puis il prenait des photos, puis là maintenant il colorise. Fait que de voir une photo noir et blanc, c'est vrai qu'il y a une distance.
Ouais.
Là, puis là, ils font, ils ont le souci de voir, puis là, tu reconnais un enfant. Là, tout à coup, ça devient un enfant. T'sais, un enfant devient un enfant contemporain.
Ouais.
Mais ça, pour le devoir de blanc, ça aide à... Tu vois, parce que juste voir des photos d'Auschwitz, c'est pas là que j'ai cassé, mettons.
OK.
Émotivement, là, quand je suis allé, j'ai cassé dans la salle où c'est toutes des... pas toutes, là. T'as une partie des milliers de souliers de bébés. Et c'est là que j'ai brisé, mais pas. Tu sais, c'était les photos, on dirait que c'est de l'archive. On dirait, je sais pas, genre, j'étais capable de dire, OK, là, c'est too much, mais sûrement que ça buildait. Mais quand je suis arrivé au soulier de bébé, là, j'ai fendu le restant de ever ma vie. C'est-à-dire que là, t'as une montagne de petits souliers, puis tu sais que si le soulier est là, c'est que la personne qui l'habitait n'est plus. Tu sais, c'est une extension. Tu dis que bon, ça sert à rien des souliers de bébé. Puis ils ne te donnent pas à d'autres bébés parce qu'il n'y en aura pas. Là. Fait que c'est des tout petits souliers d'enfants de 0 à 10 ans. Là. puis des petites bottines, des bottillons de cette époque-là. Fait que là, tu sais, tu te vois comme parent, tu sais, ou tu vois comme personne dans le filet, tu vois un pied rentrer là-dedans, puis ça épousait, puis ça avait été fait pour un être humain, puis tout ça. Fait que ça, ça a été... ouais. Mais le fait qu'il colorise maintenant, ça aide les gens aujourd'hui de rester connectés.
Mais je pense que c'est une bonne chose.
Puis même chose avec les soldats qui sont allés se battre, même chose avec tous les protagonistes, même chose avec Hitler, c'est super important de voir puis de remplacer toutes les images d'Hitler noir et blanc par des Hitler en couleur. Ça, c'est super important.
Mais cette charge émotive-là, on dirait que c'est parce que ça fait tellement... Moi, depuis que je suis né, je suis né en 87. Hein, fait, tout ça était, ça faisait longtemps que c'était fini.
Moi aussi. Deuxième guerre mondiale, je suis né en 68. Ça finit, tu vois, j'avais 4-5 ans. C'est ça, c'était fini. Tout le monde, c'était fini.
Ouais, sauf c'est que j'ai toujours juste vu... Moi, j'ai juste vu des films là-dessus. Ouais. Je pensais l'autre jour à quel point, outre le fait que ça a été tout le côté économique de ça, je me disais à quel point ça générait de l'argent. D'un point de vue, faut construire tout, faut vendre des guns et tout ça. Mais après ça, tout ce qui a été fait de films, de livres là-dessus, le cash qui a été généré autour les de cette dérivés, histoire-là.
Ouais, c'est sûr que les produits dérivés. C'est...
Ça me fascine à quel point ça a été exploité et réexploité. Et en fait, des films, des livres, puis des jeux, juste des jeux. Là. Non, tu peux jouer à la Deuxième Guerre mondiale. Là.
Absolument.
Tu peux jouer dedans, puis c'est rendu comme, on dirait que ça doit avoir désensibilisé bien du monde.
Ah oui, dans ce sens-là. Okay, là, je m'en ai dit, t'en allais.
Oui, non, non, non.
Non, non, mais oui. Oui, non, il n'y a pas de scandale économique là, dans les produits dérivés. Mais il y a quelque chose de malsain à, effectivement, mettons, pas faire un jeu vidéo, mais faire un jeu vidéo dont les profits, mettons, iraient pas à...
Ouais.
C'est ça. C'est bravo à ceux qui sont. Bravo à ceux qui font de l'argent sur une histoire absolument encore
épouvantable.
Dont il y a encore des survivants aujourd'hui. Puis que eux autres, c'est bien réel. Puis d'imaginer que toi, tu fais des millions en faisant un jeu vidéo. Mais voilà, c'est ça. La mission d'éducation. Ce que je trouve. Tu vois, moi, je suis revenu dans Auschwitz. Puis je me disais, aussi étrange que ça peut être d'aller en voyage. Puis d'aller jusqu'en Pologne. Voir ça, mais je me disais, ok, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller en Pologne ou qui vont aller dans les pays de l'Est voir. Mais Auschwitz, c'est vraiment impressionnant. Mais puis je me disais, on a tellement de terrain.
D'être présent, là, pour
moi,
vrai,
moi, ce que j'imaginais, c'est sûr que c'est une idée qui n'aura jamais lieu, mais je me dis, ça aurait été le fun que ça existe en Amérique du Nord quelque part. Un camp de concentration, une réplique de camp de concentration pour voir.
Ouais.
Pour constater. C'est impressionnant.
On a eu des camps ici, mais c'était pas des... Je pense qu'à Rouyn-Noranda, il y avait des camps des Ukrainiens. Là.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était pas la même chose.
Non,
que
pas des camps de concentration.
On était pas en même place. Là.
Auschwitz...
C'était des camps de prisonniers, mais c'était...
C'est ça.
C'était juste pas exactement... C'était pas la même chose.
C'est ça.
Là.
C'est lugubre à construire. Il y a rien qui... Il y a aucune étape de ce projet-là qui va arriver puis qui serait... Mais le résultat, si je pouvais faire apparaître demain matin... Auschwitz 1 et 2, puis de le montrer aux gens, je pense que ça aurait une fonction éducative. Parce que de ne pas y aller, pour certaines personnes, il y a des gens qui sont capables, comme les artistes sont capables, ou les gens qui ont beaucoup d'imagination, d'utiliser leur imagination pour imaginer une situation, puis se transposer dans la situation. Puis je pense que tu peux, en utilisant ton imagination, puis des données, des vraies données, faire aller ton cerveau puis te mettre dans la peau de gens que tu n'as jamais connus.
Ouais.
Ou dans la peau de t'imaginer vivre cette situation, ça devait être pas loin d'être ça. Puis mais il y a des gens qui n'ont pas cette imagination-là.
Ouais. Qui ont besoin de
l'imagination
vivre,
concrète puis de juste faire de pogner en patente. T'sais. Puis comme tous les musées que je trouve bien, bien plates, de dire « voici une chaise électrique », puis ils font « oh! » Puis « ah, une chaise électrique, oh quoi? Oh! » Puis il y en a qui sont plus dans la mécanique de « ok, oh, hey, ça crée, c'est violent. » Je l'avais imaginé que ça l'était.
Ouais, mais il y avait besoin de
mais
l'être
il y en a
devant.
D'autres qui ont besoin de le voir, puis une affaire comme ça, il y en a beaucoup qui auraient besoin de juste...
Une espèce juste de Disney World l'empathie, là.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est interprétable tout croche à tellement de niveaux, mais... Je pense que fondamentalement...
Mais c'est parce que
c'est un des apprentissages, mettons, très récents. C'est pour ça qu'on en parle encore. C'est très récent. Il n'y a pas beaucoup d'exemples qui accotent celui-là.
En termes de dégueulasserie humaine.
Ouais, c'est ça. En termes de possibilités. Oui, c'est ça. Ouais. Puis de voir à quel point l'être humain peut aller donc jusque-là, mais c'est pas l'être humain, c'est l'être humain organisé, l'être humain éduqué, l'être humain en gang, l'être humain avec lettré. Tu sais, le peuple allemand, c'était loin d'être des imbéciles, c'est pas des sauvages, c'est pas, tu sais, il y a pas toutes les insultes qu'on peut imaginer d'une culture, une culture qui a produit des grands philosophes, tout ça, puis là, wow!
C'est fou, pareil. Ça fait peur. Là.
C'était peurant. Puis de l'autre bord, les Russes, c'est encore pire. Pas pire, mais c'est,
ben,
c'est pire dans le sens...
Ça a débordé des deux bords. Là.
Pire dans le sens où ça a pris du temps avant qu'on accepte de dire que les Russes, c'était épouvantable. Ça a été long avant que la société occidentale nomme que le régime soviétique a fait des horreurs, tu sais, puis révalise.
Ça, je savais pas, par exemple. Je suis pas...
Ça a pris du temps.
OK.
Ça a pris du temps, parce que surtout les intellectuels français disaient que les Russes avaient quand même un bon système, puis le communisme, c'était quand même... Ça a été le début des années 70 où, là, ils ont vraiment fait, OK, le communisme, c'est vraiment... Ils ont accepté que c'est un système absolument dangereux. Mais la différence avec le fascisme, c'est que... Puis c'est ça qui est épeurant avec les États-Unis en ce moment, c'est... Le fascisme et le communisme, c'est... Le fasciste, c'est une personne qui le symbolise. Ça devient comme... Tu sais, Hitler, c'était le peuple allemand. Donc, il y avait une fusion entre lui et le peuple, puis un était l'autre. Puis si le peuple mourait... Si lui mourait, le peuple mourait.
Ouais.
Donc, tous les derniers mois, mettons, où les Allemands savent qu'ils vont perdre la guerre, pourquoi ils n'arrêtent pas pour sauver les meubles, négocier avec soit les Russes, évidemment c'était pas les Russes, ils savaient qu'ils allaient se faire tuer par les Russes, fait que négocier avec les Américains ou les Anglais, puis dire OK, on va arrêter, puis on va sauver une partie de la population. Pourquoi? Parce que Hitler, son destin était lié avec le peuple allemand, puis lui, il allait pas négocier, puis lui, il allait pas survivre à ça, fait que tout le monde allait mourir avec lui.
Il a amené tout le monde
fait
avec lui.
Dans cette logique-là, de la dernière année et demie de la Deuxième Guerre mondiale, où on sait qu'il, puis tout le monde sait qu'il est fait, lui, il sait qu'il est fait physique. Puis donc, il amène dans la mort tous ces gens-là. Fait que les derniers millions qui sont morts sont vraiment morts à cause d'une raison totalement psychologique reliée à Hitler qui refuse de négocier. Mais quand lui, il quitte, c'est la fin du régime. Il est mort. Les 3-4 wobos qui le suivaient se font pogner.
C'est cool, ils on peut penser à d'autres choses.
Puis là, whoop, c'est reparti. Puis là, on peut repartir from scratch. Puis là, l'Allemagne devient pacifique, puis tout ça. Puis c'est...
C'est que c'est fou.
Alors que les Russes, Staline meurt, il est remplacé par quelqu'un, puis le système reste le même. Il y a encore autant de monde dans les prisons. Il y a autant de line-up pour les patates, puis le peuple est aussi pas capable de s'en sortir. Puis l'autre meurt, il est remplacé par un autre. Fait que le système communiste rend ça lourd, mais peu importe qui est à la tête.
Ouais.
Fait que c'est encore plus... C'est encore moins... Il y a moins d'espoir que tu peux mettre une balle dans le front de la personne
pour
responsable.
Pour défaire tout ça, c'est super long.
Puis défaire tout ça comme dans un film, puis dire « j'ai tué Sauron ». Puis là, tout à coup, l'anneau est là. Dans le communisme, il l'a pas, ça, cet anneau-là. Fait que ça a été épuisant de regarder le régime communiste pendant 100 ans comme faire des victimes, alors que... Le nazisme, ça a été comme pop.
C'était plus facile à pointer du doigt ou à démanteler.
Puis là, suite à, mettons, cette lecture de l'histoire-là, puis là, tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, tu dis, mettons, demain matin, quelqu'un mettait une balle dans le front à Trump, ça ne règle pas le système républicain qui est capable de s'aveugler puis d'élire n'importe qui. Tu sais, ce serait une chèvre en ce moment. Une chèvre, c'est meilleur qu'un démocrate pour ces gens-là. Fait que là, c'est même pas... Tu sais, il y a pas...
Mais c'est la politique identitaire, là, l'espèce de...
N'importe qui, sauf un démocrate.
Ouais.
C'est une guerre civile mentale.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est épeurant. C'est que ça fait en sorte que quand c'est un système qui, peu importe que ce soit Trump, une chèvre...
Un balai,
un fil, un verre d'eau, un Gatorade.
J'aimerais ça qu'on
rien.
J'aimerais ça qu'on se rende là un jour.
Une suite d'objets inanimés.
Cette année, le toaster a gagné.
Un toaster contre Joe Biden, puis le toaster gagne le vote populaire. Puis il gagne la Floride par une pin. Fait que le toaster avec quelqu'un qui...
Ils vont faire un speech, puis c'est juste...
Là, tu dis... The toaster said it.
Grab him by the toast.
Ouais, c'est ça. On a un toaster, le chief of staff, le chef de l'armée américaine, c'est un toaster, puis tout le monde est comme...
Mais tout le monde respecte la démocratie. Toaster, c'est la démocratie à parler.
Faut respecter les gens. Vous ne respectez personne.
Ah, si, c'est le gateway vers le transhumanisme puis les robots. Pis c'est... Imagine-tu le premier leader, c'est un toaster, puis après ça, éventuellement, c'est un vrai ordi, puis c'est Terminator, puis les machines prennent
le dessus. On est à 24 heures d'avoir ce débat-là de « Ouais, mais est-ce qu'on est prêt à élire un robot? »
Honnêtement, oui. C'est vrai.
Je pense que les médias sont pas gênés d'avoir
des questions comme ça. Qu'on n'est pas...
Ouais. Il pourrait avoir un musée assez effarant de toutes les questions que les médias ont posées à la population pour faire un show. Là.
Uh-huh.
Tu ferais un musée de ça. Là. Moi, j'ai des souvenirs là, du début d'Internet. Là. Est-ce que le sexe virtuel va remplacer la sexualité? On est en 94. Puis là, ça parle de ça à Radio-Canada. Puis à l'époque, je me disais, dans quel monde farfelu ils vivent?
Ouais.
Tu sais, qu'est-ce qu'ils imaginent? T'inventes sérieusement? Un logiciel, puis t'es vraiment parti en peur que tout le monde va changer.
C'était déjà, sensationnaliste, là, mais c'est un peu ça. Là. À ce moment-là, j'ai l'impression dans ma tête que, écoute, c'est ouais. sûr que vu que je suis plus jeune, peut-être que c'est ça qui crée ça.
Exactement, mais moi aussi. Mais... Moi, c'est ça ma révélation des dernières années. C'est nouveau, ça. C'est dès que tu cherches un peu, tu fais comme ah, ok, tout existait avant moi.
Ouais. Mais c'est niaiseux, mais ouais. C'est juste ma réalité, c'est ça. Fait que c'est sûr que dans ma tête...
C'est bizarre qu'on se l'enseigne pas. C'est bizarre que moi, on m'ait pas expliqué que tout ce que tu es en train de découvrir a été découvert, pas par ton grand-père, par son grand-père et le grand-père avant lui. Il y a rien de ce que tu t'enlignes pour vivre qui a le soupçon d'un début d'originalité.
Qui est si nouveau que ça.
Fait
que
dis-moi-les. Fait que là, je vais faire « Ah, OK, je me sentirai pas seul. Je vais être solidaire de tous ceux qui ont vécu ça avant moi. » Parce qu'effectivement, il n'y a absolument rien. Tu sais, comme humoriste, mettons, là, si on revient à notre nombril commun, on se fait constamment dire là, en entrevue, je viens de faire une longue liste, séquence d'entrevue là, pour mon show, puis c'est tout le temps... Mais là, maintenant, qu'est-ce qui est particulier avec maintenant? Rien. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a absolument rien. Toutes les forces en présence, tout ce que je lis, c'est des forces en présence qui existaient déjà.
J'ai une question sur le Patreon par rapport à ça, justement, pour toi. J'avais envie de t'en parler, là, parce que...
Je vais répondre.
Jean-Philippe Poulin, ben, ça rapporte exactement à ce que tu dis, qui disait, lors de ses débuts, est-ce qu'il y avait autant d'humoristes du style personnage qu'aujourd'hui? Pas seulement un personnage occasionnel dans un show, mais le style complet. Exemple, parle trop fort, trop vite, trop lentement. Puis il dit, personnellement, je trouve que plusieurs humoristes aujourd'hui semblent avoir de la misère à créer du nouveau contenu, donc créer un personnage avec un style est peut-être plus facile pour eux. Je trouvais que c'était une bonne question.
Bonne question. Je m'en allais pas pour répondre à ça dans le livre. Fait que je vais répondre à ta question.
Mm-hmm.
Puis...
On est au livre tout de suite après.
Moi, j'ai amené le livre parce que...
Ouais?
On va se demander pourquoi, mais tu devrais les faire tirer.
Tu veux que je
les
fasse tirer?
Ok, je vais lire avant. On en parlera après.
Okay.
Mais pour répondre à ta question, oui. son équation de départ, c'est que c'est plus facile de faire des personnages en ce moment?
Non, je pense que ce qu'il a l'air de vouloir dire, c'est que les humoristes ils ont de la misère à trouver du nouveau contenu, donc ils vont se trouver un personnage qui est plus original.
Ben, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup.
Tu changes la forme au lieu de changer le fond. Là.
Mais rapidement, quand tu crées un personnage, « Me mets à parler comme ça, puis là, puis je suis un robot, puis... » Au bout de 2 secondes, il faut que j'écrive des jokes pour justifier cette voix de cave-là.
Ouais.
Puis là, tu tombes dans l'écriture un peu, fait qu'il n'y a rien qui change. Ça ne devient pas plus facile. Mais c'est sûr que si tu t'inventes un personnage de cyclope qui a un œil, puis là, c'est sûr que tu peux pas faire les jokes de stand-up
ton classique. Ton écriture, elle vient de s'ouvrir.
J'ai déménagé dans la région, dans Montréal, le choc du métro. Là, tout le parler du fait que tu as un œil.
Ouais.
Fait que là, ça change ton écriture, puis là, tu vas... C'est un truc qui devrait t'aider à aller dans des territoires inexplorés. Mm-hmm. Fait que ça va toujours exister, puis je trouve ça intéressant, non?
Mais je pense qu'il parle des personnages du style plus personnages de stand-up. Tu sais, mettons un gars comme Bellefeuille, là.
Bellefeuille, c'est un personnage, ouais.
C'est un personnage de stand-up, ouais. Mais c'est pas comme un personnage occasionnel de « OK, ah, oh, il vient en personnage en ce moment, il rentre avec son costume, puis là, tu fais « OK, c'est juste... »
Non, c'est un personnage, c'est la version moderne du personnage.
Ben, c'est ça, je pense que c'est cette évolution-là. C'est mixé, le stand-up traditionnel, puis le gros costume.
Avant, en fait, on mettait un costume, Bellefeuille, il s'est mis des lunettes.
Comme Manny, comme...
Puis là, tu sais, il l'a toujours gardé proche de lui, mais tu sais, c'était comme un personnage, mais... Je trouve que c'est la version moderne de l'approche du personnage.
Mais il y avait-tu ça, quand tu as commencé justement, il y avait-tu cette recherche-là où le monde faisait du stand-up ou des plus gros personnages?
J'avais tellement pas beaucoup de stand-up quand j'ai commencé,
okay,
que t'étais alternatif dès que tu faisais du stand-up, parce que faire du stand-up, c'était comme pas l'affaire qui pognait, c'était les personnages qui pognaient. C'était... Daniel Lemire faisait du stand-up, mais d'une façon... très stiff, pas très organique, là, tu sais, okay, très... des jokes d'actualité,
il là, faisait des liners, là, il avait l'air
de... Mais ce que les gens étaient venus voir, c'était l'oncle Georges. Fait que, tu sais, Jean-Michel Anctil, ça a été une bombe, parce que c'était que des personnages, mais ma génération, mettons, moi qui a fait des personnages au début, un peu, mais c'était pas ma force, puis je faisais du stand-up, mettons, mais des Maxime Martin, François Morancy, Mascotte, tout ça, on faisait du stand-up, mais c'était pas l'affaire à la mode. On n'était pas... à la mode, on était alternatif en faisant ça. Ce qui était vraiment mainstream, c'était des personnages.
Mais d'avoir une personnalité éclatée dans une forme de stand-up, c'est-tu quelque chose qui... Y avait-tu une recherche de ça ou c'était même pas quelque chose que les gens faisaient? C'était très « je suis moi comme ça. Je suis pas une version plus éclatée, plus anxieuse, où j'essaie d'accentuer ça. » Ou
non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant avec Bellefeuille. Ce qui amène de nouveau, c'est qu'il a pris un élément, il a pris une vibration qui existe chez lui de façon très naturelle, puis il en a fait un canevas, puis son canevas, il tient la route pendant une heure et demie. C'est merveilleux. Je trouve qu'il a amené une couche de plus à...
Au perso, OK.
Mettons, à l'histoire des personnages, puis là, c'est ça. Il est allé puiser...
Son gimmick.
Il est allé puiser vraiment dans le stand-up, son écriture, mais il a pris le meilleur, mettons, d'un personnage en gardant le meilleur d'un stand-up, c'est que ça fait une fusion écœurante, tu sais.
OK, cool. Mais je pense que... Ça répond bien à la question, hein?
Tous les stand-up découvrent que... Moi, je sais que j'ai des vibrations super plates, puis j'ai une vibration comique, puis sur scène, j'utilise évidemment la deuxième... Mais je pense pas qu'un humoriste sont pas nombreux, mettons, ceux que je connais intimement qui sont capables d'amener sur scène toute la palette de leurs vibrations puis de leur énergie avec la même efficacité. Tu sais, je veux dire,
Là, la recherche aussi, là, c'est ça qui est long à trouver, là.
Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, ben c'est ça. Quand je monte sur scène, j'utilise ça dans mon vocabulaire. Puis je laisse ça de côté.
T'as-tu fait des deuils?
Puis je m'obstine. Tu sais, moi, quand je vais tester mes premières V, j'amène avec moi l'énergie que j'avais quand je l'ai écrit, qui n'est pas une énergie nécessairement comique. Puis là, je fais le tri. Puis j'essaye. Puis je fais. Tu sais, j'aime ça rajouter quelque chose à ma palette. T'sais, j'aime ça découvrir que je peux aller dans cette zone-là, mais c'est narrow, c'est mince, la capacité d'ouvrir ça. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, c'est ça. Tu sais, mettons, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Ouais. Ben, tu arrives sur scène, mais il y en a qui en ont 4. Puis il y en a qui peuvent en prendre 12. Mais c'est jamais 26.
Ouais.
Tu choisis, hein, puis j'ai vu trop d'humoristes dans ma vie, backstage puis sur scène, puis il n'y a personne qui utilise. Mais il y en a beaucoup qui sont... Puis il y en a beaucoup que leur comique de coulisses ne passe pas sur scène non plus.
Oui, ça me fascine, ça. Oh, oui.
Tu sais, mettons Courtemanche, là, mais tu sais, mon chum que je connais depuis que j'ai 16 ans, je sais que Courtemanche est hilarant sur scène avec ce qu'il fait. Je sais qu'il était capable d'être hilarant backstage, mais il y a vraiment une partie de backstage qui n'a aucune affaire sur scène et qui ne fonctionnerait pas.
Okay.
Tu comprends?
Oh, ouais, absolument.
Fait que c'est valide pour toi et pour moi aussi. Là, c'est juste
mais c'est
que
frustrant, je
plus chez les autres. Mais c'est frustrant. T'es déjà chanceux de monter sur une scène et d'être
ouais, bon. Ouais, OK. Mais quand,
tu fais partie des chanceux.
Et quand tu cherches à t'es développer...
Quand t'es un joueur de hockey, là, à un moment donné, quand un joueur de hockey... rendu, probablement que tous les joueurs de hockey rendus à 30 ans font bon, mais je pense pas que je vais me développer des nouveaux talents d'ici à la retraite. J'ai tout essayé. J'ai eu quoi, là? Tu sais, là, t'as 30 ans. T'as 30 ans, tu joues au hockey depuis que t'as 5 ans. Je pense que si t'étais bon à faire des pivots,
ça serait déjà derrière toi.
Là, okay. Tes acquis là, sont derrière toi. T'es en train de faire ce que t'as de meilleur. Je pense pas que tu fais des acquis toute ta vie dans tous les domaines, tu sais.
Ouais.
Comme écriture, t'es tout le temps en train, d'inventer des choses.
Tu continues de pousser, là.
Ben oui, mais
parce que ça peut facilement servir de « oh, ça me sert à rien d'essayer de continuer de pousser ». Tu vois ce que je veux dire?
Ben oui, parce que l'époque...
Je trouve ça dangereux, ça, comme...
L'époque change, puis là, le hasard peut faire que quelque chose que t'as, que t'avais jamais développé, mettons, en début de carrière, le hasard peut faire que... Ah, OK, là, les gens, ils trouvent ça drôle, tout ça. Okay. Mais c'est pas tout le temps que toi qui l'as développé que le hasard fait que
ça, le timing est bon, puis je peux comprendre.
Oui, parce que j'en ai vu des humoristes être pas drôles puis devenir drôles 5 ans plus tard, puis t'étais là quand il était pas drôle, puis tu fais comme... T'as pas vraiment changé grand-chose.
Ouais.
C'est vraiment la même stuff. C'est vraiment le même matériel.
Il y a quelque chose qui a déclenché, par exemple.
Là, tu regardes le monde dans la salle, puis là, ça rit fort. Tu fais comme... Ouais, mais j'ai vu ce texte-là, puis... C'est pas tellement... C'est plus dans son œil qu'il s'est passé de quoi, mais son œil, vraiment, la petite pépite de lumière, vraiment le plaisir qu'il est en train d'avoir du monde qui rit versus du monde qui riait moyen.
Ouais.
Mais je l'ai vu, ça, puis...
À quel point le marketing joue là-dedans, tu penses?
Je pense que l'époque, tu sais, les gens il y a 5 ans, avaient le goût de rire d'autre chose, puis là, ils ont le goût de rire ça.
OK, mais par marketing, je voulais dire, si t'as... Mettons, quelqu'un qui fait les mêmes textes, mais que 5 ans plus tard, à travers ça, il a fait plein de shows de TV, il a fait plein d'affaires, donc il est rendu connu, puis il y a un a priori plus positif du public par rapport à ce qu'il fait, absolument. Sans que lui ait changé nécessairement tant que ça, là, ça se peut que là, soudainement, ils sont plus ouverts parce qu'ils le connaissent d'ailleurs.
Oui, oui.
Ça se peut, ça aussi.
Ça se peut. Ils sont rassurés, puis tout ça.
Il y a un lien de confiance que t'es pas obligé d'établir autant par toi-même sur scène qui est déjà là, présent. « Ah oh non, lui, je l'aime déjà de par d'autres affaires. » Donc, cet amour-là, quand tu t'assois puis que tu connais déjà la personne, on dirait que t'es déjà plus apte à... T'as envie que ce soit bon, t'as envie que ce soit... Fait que ça peut pardonner plus. Tu fais pas 1h30 de ça, là. Tu peux pas surfer là-dessus. Faut que la
tendance soit raison. Là, mais... T'as raison, c'est les deux éléments. C'est que, tu sais, un show d'humour, c'est le tango. C'est un tango entre l'artiste puis le public. Puis l'artiste, tout au long de sa vie, va changer, mais le public, tout au long de sa vie, va changer.
Ouais.
Fait que quand tu te retrouves sur la piste de danse, c'est pour ça que c'est jamais le même spectacle qu'on fait.
Ouais.
Puis c'est pour ça que tout est différent, mais des fois, c'est différent. Les deux sont en train d'évoluer aussi. Fait que le tango, il est...
Des fois, tu te trouves, des fois, tu
perds. T'es jamais face au même partenaire de danse.
Ouais.
Puis toi-même, t'es jamais tout le temps... Sauf que la quantité de variations, et chez le public et chez toi, des fois, sont magnifiés. T'sais, on surestime à quel point les gens vont évoluer là, de façon comme masse. Là. T'sais, on entend souvent ça. Là. Oui, mais maintenant, les choses se font. Ouais, non, c'est ça. Ouvre un livre d'histoire puis qui parle de l'actualité du moment. Puis tu vas pleurer parce que tu vas avoir l'impression que tu es en train de lire Urbania.
Ouais, c'est ça. T'sais, les gens changent pas tant que ça.
90% de ce que je lis sur Urbania, j'ai lu ça, j'ai des livres, j'en ai beaucoup. Là. Puis là, j'ai fait « Ah oui, Jean-François Revel, ça c'est... Hein. » Je suis quand même allé chercher le livre que j'ai lu, mais qui lui fait référence à un autre livre. Tu sais, « La censure et les humoristes », tu sais, Mart Saul, Lenny Bruce, George Carlin parlaient, sont tous dans les discussions, les articles là-dessus, le monde parle des mêmes enjeux. Puis ça...
Mais ça vient là, de où, dis, ça, cette vision-là qu'on est?
Jamais
ça vient de où, ça?
Juste ça?
Cette espèce de vision-là que c'est nouveau, ce qu'on vit tout le temps, alors qu'on...
C'est du pur égoïsme, c'est du narcissisme, c'est de l'ignorance, c'est l'envie... fondamental et normal chez l'être humain de dire
je suis spécial.
Moi je suis spécial, puis ma génération est spéciale, puis le monde dans lequel je vis est spécial.
Ouais.
C'est vraiment puissant. Parce que non, malheureusement.
On dirait que ça t'enlève du contrôle puis du pouvoir de te faire OK, non, je suis pareil.
Est-ce que
comme...
ça t'enlève de quoi, effectivement? Parce que si c'est ça que tu pense en ce moment, je suis désolé de te l'apprendre. Mais tu sais, ça aurait servi à ça, la conversation. Mais c'est parce que moi aussi, j'ai été là-dedans. Là, je suis pas meilleur que personne. Là, j'ai déjà pensé que ma génération était spéciale. Puis quand tu réalises qu'elle ne l'est pas, ce que tu perds, c'est comme te réveiller un matin, puis tu fais comme là, tu regardes ta gang, puis tu fais comme, OK, vous êtes pas spécial comme on s'était dit hier quand t'es sur un gros high, là. Mais ça te rattache à la génération avant, celle d'avant, puis ça... Là, tu connectes avec toutes les générations de l'histoire de l'humanité. Mm-hmm. Puis là, soudainement, tu pourrais... Quand tu comprends ça, je pourrais te téléporter en Égypte, puis en une soirée, là, outre la barrière de langue, là, tu comprendrais le quotidien d'un Égyptien, puis tu ferais comme « Oh man, je relate, là. » Je comprends exactement ce que tu vis. Fait que c'est ça, ils t'obligent à aller le matin... Ah, c'est ça, ils te donnent la bouffe, mais dans le fond, ils veulent juste que tu sois en forme pour transporter des blocs de pierre, monter sa pyramide, ils calissent de toi, ils veulent juste que tu sois en forme. Exact, c'est ça. Ah ouais, le système marche.
Ça, j'allais dire.
Puis là, tu as des mêmes conversations. Puis là, tout à coup, tu dis, je suis dans la même affaire, puis je suis en Égypte il y a 5000 ans. Puis c'est là que tu réalises que tu fais partie de l'humanité et non pas d'une génération.
Mm-hmm.
Tu sais, je pense que mon prochain numéro, un de mes prochains numéros, ça va porter exactement sur ce thème-là, c'est-à-dire...
T'es pas spécial.
Ben, c'est ça. T'es unique au monde, parce que, gars, t'es vivant, c'est que c'est toi qui... T'es là, t'es l'incarnation de...
C'est toi qui es unique en ce moment.
En ce moment, c'est toi l'unique, c'est toi le précieux.
T'as juste la place parce que les autres sont plus là.
T'es vivant. Les autres, c'est ça. Ce que t'as de plus d'eux autres, c'est que les autres sont morts. C'est terminé, ils ont plus, il y a zéro capacité de revenir... C'est toi.
Dans le fond, c'est facile de dire que t'es le champion quand t'es comme moi, mais t'es le seul qui est vivant dans ton sport en ce moment. Là. Puis quand tu vas mourir, le prochain va faire « Je suis champion! »
C'est une course au témoin. T'as le témoin, puis tu fais comme de loin dans mon équipe. Le plus rapide que le témoin, c'est moi. Oui, je connais que tu le passes à l'autre, puis là, ça va être lui, puis ça va durer 10 secondes.
Dans le fond, c'est une course à relais, mais tout le monde pense que c'est un sprint quand il y a le relais dans les mains, quand il y a le témoin dans les mains.
Moi, en fait, c'est drôle. Je sais pas si les boomers... C'est même pas arrivé dans le temps des boomers, mais je pense, ce qui est récent en tout cas, c'est la façon de nommer les choses qui nous empêche le temps de voir clair, c'est de nommer les générations. Ça, je trouve que c'est une grosse, grosse erreur qu'on vit tous en ce moment. Puis ça a commencé un peu avec la mienne, parce que moi, je suis en génération X, et les boomers, évidemment, ont été nommés boomers avant ma génération, mais... par malaise ou par observation, ils se sentaient obligés de nommer la mienne.
OK.
Puis je pense pas que ma génération méritait d'être nommée. Puis je suis pas sûr que les milléniaux méritent d'être nommés. Puis je suis pas sûr que ceux qui s'en viennent encore moins méritent d'avoir un tag.
Qu'on crée des
les
gangs.
Boomers méritaient leur tag parce que démographiquement... à cause, suite à la Deuxième Guerre mondiale, soudainement, la cohorte de groupe d'âge-là était large de même, alors que les autres étaient toutes larges comme ça. Ouais. Puis eux autres sont arrivés, il n'y a pas de guerre, pas de cataclysme, il n'y a pas de grippe espagnole, ils ont tous survécu, taux de mortalité très faible. Fait que là, ils ont occupé une place démesurée dans l'organigramme social, leur strate d'âge était beaucoup trop énorme. Fait qu'il fallait nommer ce processus-là qui est comme un tsunami, allait changer les écoles toutes, parce que soudainement, il était comme à 4 pour 1, c'était tous des jeunes de cet âge-là.
Ça, c'est concret, là.
Fait que là, t'es à 4 contre 1 dans toutes les discussions de la vie. Fait que la grande génération qui était avant eux autres, qui eux autres s'étaient fait chier avec la récession, deux guerres, la récession, ils ont été traumatisés.
Hey, ça, là, ça n'a aucun sens.
Puis eux autres, ils ont fermé le gueule, puis sont devenus vieux en regardant pousser des hosties de boomers qui écoutaient le tune, puis qui regardent, qui étaient comme My Generation, on est tellement fabuleux, ils n'ont rien vécu de négatif. Puis eux autres, ils sont morts en silence dans des hospices avec des restants de traumatismes de guerre ou de famine. Puis ils ont fermé le gueule pour pas déranger. Fait cette génération-là, elle est fabuleuse. Ça s'appelle la grande génération. Ouais. Puis après ça, il y a les boomers. Mais ma génération, de dire que...
C'est séparé par X, valeur,
de,
finalement.
De coller un X sur ma génération, quand j'étais au cégep, sous prétexte que nous autres, on n'allait pas avoir de job, c'est... Là, ça devient comme un... une obligation de nommer puis de brander une génération. C'est comme si Champlain était arrivé il y a 400 ans, puis d'un livre d'histoire aujourd'hui, tu vois-tu le ridicule? On s'est en train de dire, ouais, Champlain, c'était la génération Mousquet. La génération Mousquet, c'était pas comme la génération Hallebarde ou la génération juste avant la génération Slingshot. C'était plus la génération Mousquet, une génération un petit peu centriste. C'est une génération dont on découvre l'Amérique. Tu sais, on est meilleur que les autres générations parce qu'on a découvert l'Amérique. Quel ridicule! Pas une seconde, on écouterait cette conversation-là de ouais, le chapitre des générations. Là, Jean Talon, le premier intendant en Amérique, qui est arrivé, Louis XIV, ça. Louis XIV, une génération plus de cheval, qu'on appelle cheval, parce que c'est une génération qui aime ça, se promener à cheval. Génération collant. Tu vois-tu?
On a besoin de décrire tout
le temps. On peut-tu reculer combien de 200, 500 ans en parlant de génération de même? Ça n'a aucun sens. Puis on est en train de faire ça. On explique en ce moment même, sur les réseaux sociaux partout, on véhicule une stupidité qui fait que chaque personne en ce moment, 2019, on est en fin novembre, chaque personne qui dit « boomer » puis « milléniaux » cinq fois par jour, est en train d'être jugé comme un imbécile à l'aube de l'histoire la plus large parce que tu es tout en train de dire quelque chose qui n'intéresse personne dans le futur. Puis dans le futur, tout le monde va faire comme « Ben non, c'était pas comme ça qu'il fallait le regarder. »
Ouais.
Parce que dans 150 ans, ils vont faire « Ouais, l'être humain pré-Internet, l'être humain Internet... » Mettons.
Ouais.
Ils vont coller.
Ils vont refaire les nouvelles catégories.
Ils vont
coller
le point où eux autres ils veulent, mais je peux te garantir que les termes boomer X milléniaux ne passeront pas à l'histoire.
Ouais. C'est ce style de. Faut tout nommer, faut mettre des étiquettes dans tout. Qu'est-ce que ça m'énerve? J'ai envie de. Excuse-moi, ça me fâche. J'ai envie de passer en rafale les questions.
Vas-y.
Après ça, je vais parler du livre que t'as amené. Martin, Dominique Morin voulait savoir. Martin créait des numéros d'humour physique dans le temps des bizarroïdes.
Oui.
Est-ce qu'il se sent orphelin de ce genre d'humour alors que le stand-up devient prédominant partout dans le monde?
Moi, j'ai commencé ma carrière exactement en faisant du stand-up et ça. Parce que moi, on m'a demandé... Ma carrière est arrivée par hasard. On m'a demandé d'animer cégep en spectacle alors que je n'étais plus au cégep. Puis je venais de quitter le cégep, puis le gars est tombé malade, celui qui animait cégep en spectacle ou whatever, il a choqué. Okay. Je remplace un gars en finance qui a choqué son animation de cégep en spectacle. Okay. Fait qu'on a triché cette année-là, puis... L'animatrice culturelle de Montmorency, elle a triché, puis elle a fait semblant que j'étais au cégep. Puis j'ai animé cégep en spectacle. Puis j'ai fait une assez bonne job que là, j'ai animé cégep métropolitain. Puis là, j'ai été repéré par du monde qui organisait lundi juste pour rire. Puis ma carrière a commencé comme ça.
OK.
Mais sur scène, la première fois, je faisais du stand-up 50%, puis des sketchs 50%. Ma carrière, moi, j'ai mené de front ces deux exercices de style-là qui ne se nourrissaient pas tout à fait l'un de l'autre, mais au moins, j'avais l'avantage que quand j'avais des flashs, je pouvais l'écrire pour un sketch, puis quand ça, j'étais tanné d'écrire, ben je pouvais continuer puis écrire du stand-up.
Tu sais. Ouais, t'avais tout le temps le bon véhicule pour chaque idée que t'avais.
Ouais, j'avais ces deux véhicules-là. Mais l'humour visuel m'a fait voyager comme personne, comme le stand-up m'a jamais fait voyager. Là. Ouais. Tu sais, j'ai fait des shows en France, mais c'est pas des gros voyages comme j'ai fait avec les Bizarroïdes où là, on est allé en Europe germanique, là, puis en Suisse, en Allemagne. On s'est promené puis on est allé dans ces pays-là, dans des endroits capotés, faire des festivals capotés parce qu'on faisait du visuel. Puis,
ça te manque-tu, ça?
Ben, je l'ai vécu au maximum. Puis il y a un moment où tu fais OK,
je l'ai fait là. Ah ouais.
Oui, c'est ça. Il y a un moment où tu fais comme je pense que je suis capable de visualiser que ça va être ça. Mettons je fais ça encore 10 ans, ça va être exactement ça pendant 10 ans.
Puis quand tu voyais des groupes comme les Chicks, mettons les Chicken Swell,
ouais.
Est-ce que sont-ils arrivés après, vous autres?
Ouais, mais ils existaient humainement, ils étaient là.
Ouais.
Ils sont arrivés, mettons, dans la foulée. Là, on a. Je pense qu'il y a... c'est ça. Il y a eu. On a dû exister pendant 6 mois en même temps. Mais les chicks sont arrivés. Puis je trouve que les chicks font beaucoup mieux ce que nous autres on fait. T'sais, les autres, ils le faisaient. Ils produisaient du matériel. T'sais, nous autres, on se rentrait quatre dans un... On travaillait dans l'inefficacité la plus totale pour arriver à nos petits bijoux de sketch. Là. T'sais, mettons, la nage synchro, les verres. Uh-huh. On bisounait un avec pas de technologie. Fait que tout ça, c'était un aria. Faire des deuxièmes versions, c'était épouvantablement compliqué. Puis là, t'as quatre semi-TDA qui essayent de pas oublier des bouts de moustache pour aller au prochain show. Puis là, sortir d'un cégep ou d'une école secondaire avec tout le matériel, c'est en soi un défi. Uh-huh. Fait que de show en show, il y en a tout le temps un qui manquait une paire de bas, des shorts. L'autre, il n'y avait pas le chandail. L'autre, il manquait la tuque. On reprenait la tuque. Tu sais, il va aller racheter 3 moustaches parce que là, on a tout perdu les moustaches. On restait collés à Saint-Hyacinthe. Tu sais, fait que tout ça...
Tu sais, comme tu l'as vécu.
Tu sais, je dis, arrivait juste pour rire, où là, tout le monde, la dernière seconde, mettait des professionnels pour repasser notre linge. Mais le reste de l'année, on le faisait tout fripper, là. Okay. Il y avait juste pour rire, où tout était repassé, puis tout avait de l'allure.
Puis moi, c'est ça que j'ai vu, puis je capotais.
Exactement. C'était bien fait parce qu'il y avait des professionnels, mais le reste de l'année, c'était ça, mais tout croche, tu sais. Mais le stand-up, il n'y avait pas assez de. Tu sais, s'il y avait eu le bordel, j'aurais probablement jamais fait les bizarroïdes, puis j'aurais probablement juste fait du. Stand-up, parce que quand j'ai regardé les Chicken Swell après ça, moi j'avais du fun. Là. Puis là, j'allais voir les Chicken Swell, là, puis mon fun c'était d'aller backstage. Là, puis
juste regarder
leur derrière de décor, qui est exactement le derrière de décor de nous autres. Là. Un bout, une mouche en plastique, une oreille de cochon avec un col roulé à l'envers, puis là, tout le rusty gag visuel. Puis là, je regardais ça, puis j'ai dit, oh wow! J'ai fait un show habillé comme j'étais habillé un matin.
Ouais.
J'ai pogné un micro, puis là, ça a été efficace. Ça m'a rien coûté. Puis je repars chez nous, puis là, j'ai rien oublié, puis j'ai rien amené. Ça, là, le plaisir, la simplicité du stand-up, je l'ai tellement payé par la complexité de faire des sketchs.
Que finalement, t'apprécies
ça. Je me suis jamais ennuyé une seconde de faire « Oh mon Dieu, là, on fait tel sketch. Oh, OK, il faut que je pense à mes affaires. » Puis, il faut que tu sois autonome. Quand dans un groupe, là, tu peux pas demander à quelqu'un là, placer de placer tes affaires. Ça sera jamais payant. Il va être payé plus cher que tout le monde. Ouais. Passer la journée à placer tes affaires. Là. Mais je me rappelle... Puis nous autres, on était quand même malins. T'sais, on avait un sketch où on faisait de la musique sur des verres, mais tout était enregistré sur une bande-son. Fait que le sketch, on arrivait, puis là, puis là, on commençait une toune. Mais tout ça est enregistré. On arrivait, là, tu sais, on a fait ce sketch-là, mettons, 80 soirs en ligne en Allemagne, dans un théâtre. Puis... à tous les soirs, on rentrait, puis là, on mettait du colorant bleu, là, puis là, je remplissais mes verres, puis là, avec une... Hein, tu sais, pour que ça donne l'impression. Ça donne flûte, tout, là, ouais. Lui, il mettait du jaune, l'autre du orange, je disais. Puis là, on s'habillait, on mettait une chemise, puis là, on arrivait le soir, puis là... Il y en a un qui mettait l'autre, là, le Sandman pesait play. Puis là, le sketch partait, là. C'était comme être magicien, faire un tour de magie. J'avais juste à faire... On se regardait, j'étais même plus stressé. Y a rien... Je pouvais le faire stressé ou pas stressé. C'était le même résultat dans la salle. Le monde tripait autant, là. Puis en plus, il y avait des explosions, enfin. Fait que tu sais, il n'y avait rien à faire. Je m'emmerdais. Créer le sketch, c'est un sketch qui a été créé. Mais après ça, l'exécuter, il n'y avait pas de risque, j'apprenais rien, j'étais pas en train de, moi, comme être humain ou comme artiste, m'améliorer. Ah ben, je devenais un singe qui faisait de la mécanique, puis tout ça. Fait que non.
OK, nice. Je comprends parfaitement.
J'ai donné, mais c'est ça.
Gab, je veux savoir pourquoi t'as pas joué dans les Boys 3. Ben là, j'imagine.
Les Boys 3, parce que je faisais une émission de télévision, puis ça m'empêchait de...
T'as-tu fait chier?
Je fais...
T'es pas obligé de répondre.
Non, si ça m'a pas fait chier, parce que je peux pas dire que... Si t'as vu les Boys 2...
Mais tu sais, comment t'as trouvé ça jouer dans les Boys 2?
C'est ça, si anecdotes. T'as vu les Boys 2, tu sais que mes 6 répliques n'ont pas passé à l'histoire. T'as pas un personnage... J'étais un personnage que j'étais content qu'il existe plus après le...
Ah ouais, okay.
Déjà, ça m'impressionnait pas. Moi, quand ils m'ont appelé, quand Loussaïa m'a appelé pour jouer dans les Boys 2, j'étais chez nous, dans mon appartement, comme ça, ici, hein? Là, puis... Tu sais, il m'appelle, il dit « Ah, Martin, les boys, je joue bien les Boys 2. » Puis là, j'étais comme « Oui, tu sais, on t'appelle pour jouer dans un film québécois.
Tu dis oui.
Tu dis oui. T'as vu les boys, hein? Je dis oui, oui, oui. Pas vu les boys.
Pas vrai?
J'ai vu les boys 1 4 ans après avoir joué dans les boys 2. Fait que ce que ça m'a demandé de faire semblant d'avoir vu le 1 pendant le tournage du 2, esti, là. Puis là, c'était compliqué, là. Puis là, le beau, je savais même pas que c'était ses cheveux de vie ou de personnage. Puis là, moi, j'arrive sur le set, puis là, puis je commence à tourner ça en Europe, là. J'étais en France, là.
Ah, c'est vrai, c'est le film de la Chamonix.
On commençait avec les scènes de Chamonix, puis après ça, on s'en va. On faisait les scènes d'aréna québécoise après. Tout le long, je fais semblant que j'ai vu le 1. C'est fatigant, là. Je sais pas qu'est-ce que Michel Charest fait comme personnage. Là, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Puis là, les gars, ça jase, puis ils ont déjà une complexité d'avoir fait un film que j'ai même pas pris la peine de voir. C'est-à-dire l'intérêt que j'ai porté à ce contrat-là. Mais je me disais, j'ai 6 répliques anyway. Il y avait jamais... est-ce que... C'était dans mon ADN, vraiment, de... Puis après ça, tourner les scènes de hockey, ça a été l'expérience de tournage la plus plate de ma vie, d'être habillé en hockey. Puis moi, je trouve que les arénas, ça pue. Fait que moi, je trouve qu'une aréna pue en partant. Je sais que tu joues au hockey, là.
Ouais, c'est pas grave, ouais.
Mais
c'est vrai que ça pue, là. C'est...
Ça pue? OK. Ouais. Parce que moi, je trouve vraiment que ça pue. Puis passer la journée habillé en hockey... avec cette petite odeur-là, à ne rien faire que des scènes de « oh, wow », puis de regarder les chars passer. C'était vraiment long. Je me suis emmerdé, puis pendant ce tournage-là, j'ai fait « hey, sais-tu quoi, si le cinéma, c'est plate de même, je veux plus jamais en faire. » Okay. Fait que je suis sorti de cette expérience-là en me disant « Asti, regarde, moi, je suis un gars de scène, je suis pas un gars de cinéma, fuck that. » Fait que c'est plate parce qu'on m'a offert peut-être 4-5 films depuis... que j'ai dit non à des plein de films. Ben, plein.
4-5, c'est 4-5, beaucoup,
5,
là.
En québécois, c'est plein.
Ouais.
Puis j'ai dit non à chaque fois, basé sur le principe de base que ça allait être plate. Peu importe ce qu'on me proposait, j'évaluais la quantité, puis là, je me disais, je suis pas un gars de film.
Ouais.
Je suis pas un gars de film. Puis c'est important, c'est un plat. Quand t'embarques d'un projet...
C'est important de le savoir.
D'être trooper.
Ouais.
Parce que j'étais trooper dans les Boys 2 après, quand on sortait. Là, j'étais plus en train de faire semblant que j'avais vu le 1.
Ouais.
Je pouvais vivre. Donc, mais tu sais,
j'avais toi, t'as eu ton propre... T'sais, avec les pêcheurs. T'en as vécu du monde là, qui était trooper ou pas trooper, dans le sens où...
Ouais. Puis là, après ça, tu sais à quel point c'est important. Après ça, t'arrivais les pêcheurs, puis... Là, j'ai fait « Ah, OK. Ah, c'est ça, OK, donc c'est le fun. » Ça peut être vraiment super le fun des tournages. C'est juste que quand t'es figurant ou acteur dans le fond, c'est vrai que c'est super plate.
Mais ce que je veux dire, c'est que t'as besoin que tout le monde soit on board parce que t'as quand même une vision amenée au bout.
Ceux qui viennent puis qui viennent s'emmerder, ben c'est vrai que...
Ça
affecte l'énergie. Fait que si j'étais allé faire, mettons, les Boys 3 avec mon énergie de marde, je pense que ça aurait pas été le fun pour le monde. Puis d'aller faire, avec cette énergie-là, d'aller faire les 5-6 autres films qu'on m'a proposés, puis d'aller... Ce que je visualisais être des trop longues journées où je m'emmerde.
Où tu fais 2 scènes, puis...
Puis là, je finis par m'en vouloir d'avoir embarqué dans ce projet-là. Fait que... Voilà, j'ai
très
dit
cool.
Non. C'est
bien.
Mais drôle de question.
Ah, mais je trouve ça le fun.
Bonne question.
Je veux savoir, c'est quoi ton... Yann, Cédric, je veux savoir, c'est quoi son opinion sur les podcasts? Puis vas-tu faire un sous-écoute?
Ben, c'est pas comme sous-écoute ce qu'on fait?
Ben, c'est comme sous-écoute, mais c'est pas sous-écoute. Je suis désolé. Si tu t'attendais à voir les
codes d'écoute de sous-écoute. C'est quoi la différence, maintenant, sous-écoute?
À peu près 100 000 vues de plus.
OK.
C'est comme sous-écoute, mais sous-écoute, c'est live devant public.
Ouais.
Il y a l'énergie. Ouais. C'est ça. C'est une grosse, grosse, grosse machine.
Ben, ouais.
Ouais.
Parce que moi, il m'en a.
Tout le monde en parle du web, en fait.
Là. Ah oui, tout le monde en parle.
C'est pas mal. Là. C'est carrément okay.
C'est le tout le monde en parle.
Ah, vraiment. Mike, là, son podcast, c'est hallucinant là, à quel point c'est gros. Là.
Ouais,
c'est cool.
Ça.
C'est ce qu'il a réussi à faire avec. Parce que tout le monde ne prenait pas au sérieux, là, tu sais. J'ai entendu dire qu'il y a du monde en radio à cette heure.
Moi, je le prenais pas au sérieux. Moi, j'ai dit non à Mike au début. Moi, j'ai dit oui à Mike au début quand c'était par... il l'a fait par
Skype.
Par Skype.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai fait le pré-sous-écoute. Fait que j'estime que j'ai fait sous-écoute
ouais.
La première mouture, mettons. Ouais. J'ai fait de Skype, de chez nous, puis tout ça. Tu sais, puis je trouvais ça... Mais après ça, Mike, il me l'a demandé au début, puis je pense que je l'ai froissé, bien honnêtement, parce que il me l'a demandé quand même 2 fois, gentiment. Puis les 2 fois, je voyais la même affaire. En fait, il y a deux choses. C'est que je trouve pas ça particulièrement intéressant si c'est pour être des conversations d'humoristes qu'on a sur le métier. Ce que je pensais être... C'est comment, mettons...
Comment t'écris... Ouais.
Ça peut être plate.
Okay.
Fait qu'il y a ça, là, si tu me demandes ce que je pense de... C'est pas tout le temps révolutionnaire sur, par rapport à moi comme consommateur, parce que je passe ma vie depuis 30 ans avec des humoristes. Je pense que j'ai tout entendu les mille et une versions de mon métier.
Je comprends parfaitement.
Fait que c'est sûr que moi, si j'ai à écouter un podcast, j'en écoute, je vais écouter quelque chose qui parle de couture avant d'écouter des humoristes qui raconter au public une version legit d'une anecdote que moi j'ai entendue version 3X.
Ouais. C'est souvent aussi, ça aussi, hein?
C'est aussi ça. Fait que je regarde des camarades parce que j'ai pogné là, des bouts de Mike puis d'un bout de tout le monde. Puis là, je vois des anecdotes. Je connais la version Director Scott. Je fais,
hey, man, il manque puis là, des je bouts, là.
Puis qui a manqué. Puis t'en... Ben oui! Puis, t'as ben... puis dans ma tête, c'est t'as bien fait d'enlever tous ces bouts-là parce que ça n'aurait aucun sens.
Ça passe pas, là.
Mais je vois des versions normales et normalement édulcorées de choses que je connais.
T'étais comme j'étais là.
Version plus crunchy. Parce que, ouais, non, j'étais là cette fois-là, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'au début, je m'étais dit, j'avais dit à Mike, je dis, quand Louis-José va le faire, appelle-moi. Puis je pense que ça l'a brusqué.
Ah,
ouais. Okay. Mais puis, la réalité, c'est que on m'a demandé, t'es-tu disponible, mettons, telle date? Puis moi, le dimanche, c'est le dimanche soir, je suis à mon chalet. Tu sais, je suis un papa, deux enfants, je fais du ski les fins de semaine. Fait que, tu sais...
Mais c'est très... Ton horaire a l'air d'être très sacré, comme tu disais, par rapport à l'écriture d'une journée. Tu sais, toutes ces choses-là, t'as l'air d'être...
Parce que même si c'est vu beaucoup, ça reste que, mettons, c'est un dimanche soir, ça reste encore que ma famille va gagner, mettons. Ma soirée avec mes gars va gagner contre ben des entrevues, ben des affaires, parce que... C'est ça, c'est mes seuls moments. Si, surtout comme je suis en show en ce moment, beaucoup les jeudis, vendredis, samedi... Rendu au dimanche soir.
Ouais.
Ouais.
OK.
Fait qu'il y a beaucoup de... Mon impossibilité est beaucoup... J'essaie désespérément d'être un papa qui a un horaire qui a du sens.
OK.
Fait que des fois, ça génère aussi des... Mais là, écoute, des trucs comme ça. Si tu me dis, tu sais, l'horaire fit, tout ça, j'ai... On va faire plaisir là, d'aller à tout le monde en parle. Là.
Du web. OK, c'est au carré de sable,
puis raconter des anecdotes version
léger
parce que
tu peux pas nommer tout le monde.
C'est ça. J'ai l'impression que Mike, qui me connaît très bien, saurait exactement ce que j'enlève. Tu dis pas. C'est un peu mon des fois je vis ça aussi avec Guilla quand je vois Tout le monde en parle, qui est comme un gros podcast dans le fond, ça me fait.
Ben oui, honnêtement, ça jase.
C'est quoi la différence entre Tout le monde en
parle? Le montage, en fait, c'est surtout ça.
Le podcast.
Ouais. La beauté du podcast, c'est surtout le montage.
L'absence de montage.
Ouais, il y a quelque chose là-dedans qui rend tout ça plus...
Mais ce qui change pas, mettons, montage pour montage avec Guilla, c'est que je suis quand même face à un chum qui est capable de voir dans mon œil...
Je veux pas aller là, je veux aller loin. Là,
je te raconte une version semi-bullshit de ta réponse parce que tu sais très bien que...
Ouais.
Si je dis la vérité, j'ai des avocats.
Ouais.
Des avocats.
Mais t'es bien fin d'avoir ouvert la porte, mais je rentrerai pas là. Là.
Ouais. Ouais, parce qu'il vaut dans mon œil, je m'ouvre ma gueule d'avocat. Les avocats.
Ouais, je trouve ça en aide.
Tes avocats, puis mes avocats.
C'était une belle réponse. Mais parlant d'avocat, c'est niaiseux, mais c'est un petit lien. Jean-François Marceau qui a. Puis ça, je trouve ça intéressant comme question. Comment tu t'es senti lorsque t'as été inclus dans la vidéo de Copy Comic sur GAD?
Comment je me suis senti? Ben, je le savais, parce que Copy Comic m'a contacté, fait que j'ai eu beaucoup de conversations avec Copy Comic.
Okay.
Parce que Copy Comic, évidemment, essaie de valider le plus possible ses affaires.
Il va être sûr que tout est correct.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que je savais que j'allais être dedans, tu sais.
Okay.
Puis, il y avait... Je pense que Copy Comic m'avait demandé... La copie, as-tu la copie de ce sketch-là? Là, parce que c'est Mike qui en a parlé à Copy Comic. Je dis, moi, mon premier one-man show, je l'ai sur VHS. Je ne l'ai jamais mis sur le web, volontairement en DVD, je ne sais pas comment. Fait que, je dis, non, je ne sais pas. Je ne saurais pas comment te l'envoyer en France, tout ça.
Okay. Puis,
Copy Comic est passé à d'autres choses, puis il l'a trouvé par d'autres moyens que moi directement. Fait bravo.
Wow,
puis okay. Là, il l'a mis là-dessus, puis... Mais sinon... Sinon, c'était... je me suis pas senti hommagé par... Il y a un feeling que tu dis, « Ah, OK, il a aimé mon matériel, mais... » Tu sais, qu'il l'a fait en français, il l'a fait en anglais. T'sais, quand il l'a fait en anglais, j'ai fait, « OK, il a vraiment fait l'effort, là. » Tu sais, il l'aimait vraiment, là, mon bout, pour le faire en anglais. Dans son premier numéro anglais de Just for Laughs, puis je suis dans la salle. Fait que là, j'ai vraiment fait... Ah, OK. Mais moi, j'ai tellement vécu ça souvent avec Courte Manche, où je suis assis à des premières de show avec Michel, puis c'est Michel qu'on... Tu sais, Michel Courtemanche, c'est il y a beaucoup d'emprunts physiques
okay.
que plein d'humoristes font sans s'en rendre compte,
okay.
puis qui sont des emprunts à Michel.
Ah.
Fait que moi, je connais l'alphabet de Michel, puis je sais qu'est-ce qu'il a amené puis a inventé. Fait que là, je vois des affaires, des gags, des improvisations, puis des petits morceaux d'affaires. C'est dans l'inconscient, c'est plus du copiage, c'est du... À un moment donné, il va falloir aussi qu'on comprenne comment les artistes en général fonctionnent. Tu reçois une vague d'influence, t'es une éponge, tu gobes ça, puis tu deviens toi aussi une vague d'influence, puis l'autre le gobe. Fait qu'il y a des choses qui se passent involontairement, mais légitimement de génération en génération d'humoriste.
C'est ce qui vient faire la ligne entre le plagiat, c'est le contexte à ce moment-là.
Ben, ce qui se fait pas, c'est de le faire avec du monde qui sont de ta génération. Gad Elmaleh, puis moi, on a pratiquement le même âge. Fait que tu peux pas le faire de cette façon-là. Tu peux pas copier le gars qui est en train de surfer à vague en même temps que toi.
C'est un truc vertical, mais t'es capable
d'emprunter un move au gars qui l'a surfé 40 ans avant, parce que ça fait partie de la continuité des choses, tu sais.
On n'est pas dans une optique d'évolution, là. Ça devient une optique d'emprunt à côté, c'est ça, cette espèce de structure.
C'est ça. Moi, je suis très. Tu sais, c'est plate parce que, mettons, Simon Gouache, il y avait un numéro, Simon, qui a enlevé parce que il a appris que moi, j'avais fait une affaire similaire, puis je n'étais pas d'accord avec lui parce que moi, j'étais pour que lui continue à le faire.
OK.
Parce que je savais que Simon pouvait pas m'avoir copié. Parce que c'est un numéro qui est passé une fois juste pour rire.
OK.
Il y a 12, 15 ans. Fait que, tu sais, Simon, je sais que Simon était en sixième année.
Ouais.
Quand ça a passé. Fait qu'à aucun moment donné, les chances que ça vienne de là. Sauf que c'est une réflexion qui était quand même facile à avoir. Puis que quand tu as cette réflexion-là, les gags qui en l'air découler ne peuvent que se ressembler. C'est impossible que ça se ressemble pas.
C'est comme la prémisse des Olympiques de Nain, là.
Voilà.
Tu vas arriver tout le temps aux gags de haie dans le front, puis à toutes les. Tu vas passer toutes les épreuves, puis tu vas finir par les meilleurs gags. C'est celle-là.
Exactement.
Ouais.
J'étais dans le bordel, puis là, Simon l'a fait. Puis là, j'ai sursauté. Laurent m'a regardé. Puis là, j'ai fait, oui, mais regarde les gens qui rient.
Ils savent pas. Là.
Tout le monde rit, puis ils ont du fun. Puis moi, si je pouvais. Puis ça m'a juste dit, bon, pourquoi j'ai arrêté de le. Il est encore bon, lui.
Ouais.
Puis, c'était... Tu sais, à un moment donné, il y a un passage de... Puis je suis sûr que cette gag-là, que moi... Donc, on est deux, là.
Ouais.
On est moi, puis Simon, à y avoir pensé. Fait que, logiquement, on est 15 dans le monde à y avoir pensé.
Ouais.
Puis tout le monde... Donc, il va en avoir 30 dans 10 ans qui vont penser à cette même prémisse et qui vont arriver au même résultat. Ouais. Puis ça fait pas de personne dans la gang des copieurs.
Ouais.
Ça fait juste en dire que, hey, là, on est. Faut amener que tu acceptes qu'on est une quantité énormément de personnes qui cherchons dans la même pièce.
On résout toutes les mêmes équations.
C'est ça. Donc, il va avoir de la superposition.
Okay.
Fait que là, les gens qui partent à la chasse au plagiat vont tirer. Ils vont tirer des des perdrix qui ne mériteraient pas de se faire tirer. C'est parce que on fait juste chercher les mêmes affaires.
Ben, y a une mode de chasse aux sorcières, là.
Ouais, c'est ça. C'est très, 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 très particulier. Puis je pense que ça ne se prouve que comme Copy Comic l'a fait, c'est-à-dire de le faire par effet d'accumulation. Où là, tu dis, ah, okay. Là, ça devient mathématiquement improbable que le hasard fasse en sorte que t'arrives...
le contexte avec les conditions mains, sont pas de ton bord. Là.
Je pense pas que dans ta tête, tu as le cerveau de Carlin, Martin Matt, Patrick Huard, puis tous ces gens-là dans ton cerveau à toi.
Ouais, je comprends.
Je pense pas que tu as accès. Là. C'est... Channeling, ça tout ça.
Ça vibre le sang, ce podcast-là. Oh, Lys, j'étais tout content de te recevoir.
Je parle pas de ton cerveau, je parle de Gad Elmaleh.
Je sais. Non, mais t'as absolument raison. Oui, le livre, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Sacré-Bleu, tu m'as amené des livres, ça me fait rire.
Parce que j'ai une boîte dans mon bureau que t'as vu. J'ai trop de livres dans mon bureau.
Ouais, mais c'est correct, c'est une bonne chose.
C'est ça. Fait que là, il y en a qui sont souliers, puis je trouve ça le fun. Comme... Parce que des fois, ça... c'est comme une note à moi-même. Tu dis, ah, Martin Petit, il y a 15 ans, trouvait ça important.
Mais j'hésite à le faire, ça.
Ben oui, mais c'est intéressant parce que ça me dit, je l'ai ouvert tantôt pour la première fois depuis que je l'ai lu. Puis j'ai fait, ah, OK, la foresterie est toujours la plus grosse industrie de la province avec 10 milliards de. Là, OK, c'était important. Là, j'allais. Puis définitivement, j'allais penser que j'écrivais pas un film. Là.
Oh, oui.
J'allais utiliser ça dans mon stand-up. Fait que ça, mettons, mon deuxième One Man Show, c'est un des livres que j'ai lu pendant mon deuxième One Man Show, mon livre. Fait que je suis allé puiser peut-être une information dans tout ça, mais. J'en ai souligné pas mal, puis ça fait partie des lectures. Fait que je te le donne.
C'est bien fait.
Parce que je trouve que c'est intéressant. Puis celui-là, je l'ai en double.
Sacré blues.
Puis les nouvelles cordes sensibles des Québécois. Puis, fait que ça, je trouve que ça, tu vois, ça devient du matériel. Ça, c'est un bon livre de setup, je pense, du monde.
Ouais, les pitons ou pesés, là.
Ben c'est ça, c'est les nouvelles cordes sensibles des Québécois. Fait que là, t'as 36 cordes sensibles. Fait que t'as... C'est, moi, je trouve que c'est 36 perches.
Ouais, absolument.
C'est intéressant.
Absolument. Ah, c'est bien cool, ça.
Fait que, puis je trouve ça tellement important que je l'ai acheté deux fois.
Pour tu savais mon affaire. J'ai deux montres métronomes.
Ouais.
J'ai des affaires en double que je me suis même pas servi la première fois que je l'ai acheté. Là.
C'est ça.
Fait que t'es-tu dans une optique de te débarrasser? Merci beaucoup.
J'essaie de me débarrasser tranquillement pas vite de ces livres-là parce que je me dis... Il y a la mode de... Tu l'envoies dans un parc.
Ouais. Dans la petite...
La journée, je laisse un livre, puis je l'ai fait, ça. Puis là, je le mettais sur une table à pique-nique. Puis je me dis, quelle personne, encore une fois, fait... Ah, stie, là, je l'ai trouvé, là, je le lis. Je suis sûr que personne n'a jamais lu un livre que t'as trouvé. C'est un banc de parc.
Ouais.
Parce que si t'aimes la lecture à ce point-là...
T'en as plein qui attendent.
Le marché du livre est plein de livres à 99 cents qui n'attendent que ta curiosité. Fait que si t'attends qu'ils soient gratos sur une table à pique-nique du Parc Laurier, je pense que c'est de la paresse. Je pense pas que ça t'intéresse. Encore une fois, ça rejoint notre discussion qu'on avait sur le linge des pauvres.
Ouais.
Fait que moi, je pense
que... c'était off. Ouais.
Moi, je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté, le livre. C'est que moi, j'avais un intérêt. Puis c'est ce qui fait que le livre était protégé dans ma bibliothèque. S'il est pour sortir de ma bibliothèque, j'aime mieux que la personne fasse un geste. C'est que si c'est des gens qui sont Patreon de ton ou des gens qui écrivent, qui font un geste, puis qui sont capables de prouver au moins de faker que ça ou ça les intéresse, là j'ai l'impression que le livre s'en va pas.
Il va avoir une vraie deuxième vie.
Allumer
c'est pas juste un je le jette foyer. En me disant que j'ai fait une bonne
parce
action.
Parce que
là.
Si tu fais juste le donner à quelqu'un, là c'est sûr que t'es pas game de le brûler. Quelqu'un va le faire à ta place.
Mais c'est ça, j'avoue. Dans le fond, au lieu
moi,
de juste le jeter...
Moi, j'ai un tabou.
T'assumes que t'as fait une belle action.
Parce qu'est-ce qui fait qu'on brûle pas des livres? Parce que ça se fait pas.
Ouais, c'est
ça se fait pas brûler des livres.
Ouais.
Mais tu sais, qu'est-ce que les éditeurs font avec les livres qui restent?
Je sais pas. Ah ouais, hein?
Oui.
Je sais pas. Ouais.
C'est plein... Tous les éditeurs au Québec, là, ils ont des trocs pleins de livres. Puis il y a des livres qui meurent c'est à chaque jour dans des dons.
Vrai?
Qu'est-ce que tu veux faire?
Je sais bien.
Qu'est-ce que tu veux faire avec c'est une encyclopédie? Les 10 meilleurs logiciels Internet 2012.
Ouais, ça, là.
Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire croire que tu peux pas brûler ce livre-là. Il est point important.
Windows 95 pour les nuls. Là.
C'est ça. Fait que là, il y a un endroit. Là, ça doit ressembler à Hensman's Tale. Puis ils brûlent des livres, là, mais c'est dans un secret. Ça se fait à 4 heures du matin devant aucun témoin dans de l'acide. C'est pas filmé. Parce que tout le monde est toutes des mauvaises personnes qui brûlent des livres.
Il y a une personne qui est là pour pleurer. Il la paye.
Ouais, puis il y a quelqu'un qui pleure.
Mais il la paye pour pleurer. Là, c'est pleure. Comme, elle se met de l'huile de menthe là, en dessous des yeux. Puis là, ça.
Ah non, il y a.
Elle a 8 heures à faire.
C'est tout du monde avec des soutanes. Excusez-nous, c'est mon histoire.
Mais il chute tout, par exemple.
Il pleure. quand l'almanach des logiciels des meilleurs CD-ROM de 1995. Ah ouais, c'est inutile. Mais ceux-là sont encore utiles, je pense.
C'est... Ben, merci beaucoup. Pour vrai, moi, je vais le lire. En terminant, j'ai envie de passer au bout de qu'est-ce que tu as appris récemment. Bon, on a appris plein d'affaires là, dans le podcast. Là. Mais j'ai appris récemment. Des choses. Ouais, j'ai appris plein. Mais premièrement, j'ai une question. Le Grand Montréal Comic Fest, ça, ouais. Ça y a-t-il une édition cette année?
Si tu le prononçais comme du monde, je répondrais avec les...
Comédie? Je sais pas, excuse-moi, Grand Montréal.
Grand Montréal Comic. T'as pas participé au Grand Montréal Comic, toi?
Oui, mais il a changé de nom maintenant.
Ouais.
Ben, c'est ça.
Pour m'excuse. Le simplifier?
Ben oui.
Fait que toi, t'es...
Grand Montréal Comic? Quoi? Dude, c'est genre...
Hey, je peux tellement pas te chicaner.
Il y a trois ans, deux ans d'existence.
Tu sais comment j'appelle l'école?
Quoi?
L'école de comédie.
Pour vrai?
C'est parce que ça s'appelait de même au début.
Ok,
puis je l'appelle encore. Ah oui, l'école de comédie. Puis tout le monde, mais ouais, c'est l'école nationale de l'humour. Ouais, mais quand ça a commencé, c'était l'école de comédie.
Québec, j'appelle ça le grand rire. Là. Ça doit faire comme pas loin de 9 ans que c'est comédie.
Moi, Québec,
là.
J'appelle ça la Nouvelle-France. La ouais. province. Je suis encore resté sur la Nouvelle-France.
Je sais pas décrocher.
La Nouvelle-France. C'est mon terrain, j'appelle ça une seigneurie. Encore. Fait que oui,
ben oui.
Ben oui, on a une réunion là-dessus cool, jeudi, puis on vient d'avoir des réponses des villes, parce que ça se développe dans ouais, une philosophie ça. Du Grand Montréal. Fait que là, il y a des villes qui se rajoutent.
Cool.
Fait que là, je peux pas les nommer parce que je viens d'avoir ces informations là, hier puis aujourd'hui. Mais c'est étonnant, ça veut dire que la vision qu'on a eue dès le départ, de dire « OK, juste pour être au centre-ville, puis... » À l'époque, ils réservaient toutes les salles pour nous empêcher d'exister. Ça, c'était vraiment... Ça a été intéressant. Ça va être un...
Mais pour empêcher tout le monde d'exister en juillet, là.
Ouais, c'est ça.
Dans le sens où...
C'est ça. C'était impressionnant parce que... Ouais, c'est ça. Puis c'est des gens qui sont plus en poste aujourd'hui qui faisaient ça. Mais ils se disaient ça dans notre dos quand on a commencé. Ils ne feront jamais de show à Montréal parce qu'ils n'ont pas de salle. C'était ça, le... Tu sais, c'était... Ouais, c'est ça. J'ai su beaucoup d'affaires par après puis pendant aussi, mais... Il y avait ça. Il y avait comme tellement un désir que les humoristes ne s'organisent pas et, oh mon Dieu, ne fassent pas quelque chose par eux-mêmes.
Mm-hmm.
Parce que l'industrie considère de façon... C'est très infantilisante envers les humoristes et tous les artistes québécois. Il n'y a pas... les institutions culturelles en ce moment, ça fait 30 ans que je suis dedans, là, considèrent les artistes pas loin comme des enfants de 10-11 ans.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est dit dans notre dos, tous et chacun. Il n'y a personne qui peut le prendre personnel.
C'est cute, ça. C'est cute.
On est des artistes, puis les organisations culturelles, on est du monde. C'est ça, on est comme des enfants. Fait qu'il faut leur organiser des affaires. Puis on va les appeler, puis ils vont venir, ben ce sont des enfants. Puis après ça, ils vont retourner jouer dans leur corps. Ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ce qui est très, très nouveau dans notre affaire, c'est de dire, oh, mettons que des artistes essaient de s'organiser, mettons, une fois par année, une affaire. Te dire à quel point je n'ai jamais reçu une lettre d'encouragement d'aucun festival d'humour au Québec, whatsoever.
Ah ouais, hein?
Personne. Il n'y a personne qui m'a écrit me dire, hey, c'est une belle initiative, ça. Lâche pas. Nous autres, on a fait ça dans notre coin, puis on va s'aider. Personne. Jamais. Aucune. Puis moi, demain matin, maintenant que je sais tout l'effort que ça a pris à notre équipe, puis aux humoristes qui se sont impliqués de partir ça, quelqu'un se partirait le début d'un festival, je serais le premier à y écrire. Asti, lâche pas. C'est du stock. Bravo. Puis je serais la première personne à encourager parce que je sais la difficulté qui attend tout ça, là, tu sais, hormis après l'énergie de départ, tout mon téléphone, toute la complexité. Écoute, j'aurais que de l'empathie. J'ai jamais vécu ça. Au contraire, j'ai senti une espèce de... Mais quoi ils font ça? Mais pourquoi? Mais quelle raison? Mais la même raison que tout le monde? Mettons la même raison que tout le monde. Qu'est-ce qui ferait que ce serait étrange, tu sais?
Ouais.
Ce serait légitime, tu sais? Non, mais il y a quatre choses de fondamentalement très dérangeant pour un événement qui dure, bien franchement, quelques semaines, puis qui est comme très facile à résumer. Des humoristes ont parti un organisme but non lucratif. Hey, je sais pas à combien d'entreprises à but non lucratif peuvent menacer des entreprises à but lucratif. Là.
Ouais.
Mais je suis fasciné par l'effet de dérangement d'organiser un simple festival. Puis je me dis, si au Québec, ça, c'est dérangeant, il n'y a aucun espoir qu'aucun moment donné, les artistes possèdent quoi que ce soit de leur vie artistique. Ça n'arrivera jamais.
Ça fait chier, c'est ça.
Si nous autres, on n'est pas capable de faire cette chose-là, simple, il n'y a aucun espoir que les musiciens arrivent à quoi que ce soit.
Sans que l'industrie soit par-dessus.
Les musiciens sont plus pauvres que les plus pauvres humoristes. Donc, ils n'arriveront jamais à rien. Et les artistes de cirque ou art visuel ne seront jamais capables, au Québec, d'aboutir à quoi que ce soit. D'organisation qui fait en sorte que ils deviennent partie prenante du succès de leur industrie, mettons. Ça arrivera jamais si des humoristes sont même pas capables de le faire.
C'est que c'est fou, pareil. Mais c'est OK. Fou. Mais merci beaucoup. Et en terminant, l'affaire qu'on a appris récemment, que ouais. C'est des niaiseux, mais j'ai appris ça tantôt, je trouvais ouais. Ça le fun, c'était qu'il y a plus de tigres en captivité aux États-Unis
que dans le monde.
Que dans le monde, en liberté. Ouais.
Ouais.
Il y en a genre 7000 en captivité à peu près, puis il y en a comme 3000, c'est quoi j'avais noté? 3890 qui ont été répertoriés, là, qui vivent dans la nature, et je trouvais ça fascinant de faire comme ah ouais. Hein.
Ils ont gagné, c'est eux autres qui ont gagné finalement.
Ouais.
Mettons, parce que dans le monde des tigres.
Dans le monde des tigres,
les States. Il y a toujours eu cette petite discussion-là entre. C'est-tu mieux de vivre la difficulté d'être un tigre sauvage?
On déménage-tu?
Ou d'être un tigre en captivité puis de vivre. Puis là, chacun a ses statistiques. Puis ceux qui sont en captivité, puis on ne fait pas de lien entre les humoristes, ceux qui sont en captivité disent « Ouais, mais on vit plus longtemps. » Puis ceux qui sont dans sauvage puis qui s'organisent par eux-mêmes, on ne fait pas de lien avec les humoristes. Ben « Ouais, mais nous autres, on est plus vivants. »
Ouais.
Puis là, il y a tout le temps eu cette discussion-là entre tigres et voilà.
C'est niaise. J'adore ça. Est-ce que t'as appris de quoi récemment, vite, que tu...
Récemment, non, j'ai rien okay, appris.
OK, parfait. C'est correct. Ben, tu nous as appris bien des affaires, anyway.
Oui, j'ai appris.
T'es une encyclopédie vivante, honnêtement. Merci beaucoup
c'est un plaisir.
D'être venu pour
ben, vous. Merci, je trouve ça... Ça me fait découvrir le monde des podcasts.
Ben écoute, c'est ça, c'est de la discussion.
Un podcast à la fois.
C'est de la discussion, puis... Ben parle le tien, là.
Ouais, mais j'ai tout le temps peur de ne pas être pertinent dans la vie.
Ah, mais là, écoute, il y a plein de monde qui n'ont pas cette peur-là sur Internet.
Écrivez-moi si vous pensez... C'est ça.
Je te promets que...
C'est parce que j'hésite entre le fait... Y a-tu juste comme 4 personnes que ça intéresse, puis dans ce temps-là, venez à mon bureau, puis on va parler une fois par mois... Où il y a suffisamment de gens qui justifient tout le gizmo technologique.
Je te promets que genre il y a plein de monde qui est très prêt que tu fasses un podcast là.
Bon,
c'est sûr et certain même.
Non, ouais.
Oui. Écrivez des commentaires que vous voulez un podcast avant un petit. Mettez-y de la pression, poussez-y dans le cul.
Ou que je vienne donner des livres.
Oui, ou viens me donner c'est d'autres ça, livres.
Tu viens quand tu veux, ton podcast.
Ah oui, ça c'est quand tu veux pour vrai.
Alright.
Merci énormément.
Un plaisir.
On plug tout ton, ben, plugger ton show.
Pyromane, ça recommence en janvier. Ma tournée commence en janvier.
That's it. Merci.
Un plaisir.
Yay. C'est ça un podcast.
Bon.
Ça, c'est fait. Maintenant que j'ai scrappé ta journée d'écriture.
La journée d'écriture est scrappée.
Je suis désolé. Je m'excuse.